Il est 22h03, une poignée de secondes, l'heure de retrouver Édouard Baird pour les Lumières dans la nuit, bien sûr.
Bonsoir Mariam El Kurdi.
Bonsoir.
Vous ne me dites bonsoir que les dimanches soirs, j'ai l'impression qu'il y a un côté professionnel dans notre relation, je me trompe?
Peut-être.
Oh mon Dieu, ma vie s'effondre, ça tient à rien la vie,
oh,
vous voyez.
C'est triste.
On coupe une ficelle et on s'aperçoit que ça ne tenait qu'à ça.
Eh oui.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Lumière dans la nuit.
Lumière.
Édouard Baird. France Inter.
Au téléphone. Qui est au téléphone? Dites-moi. Qui a appelé? Excusez-moi, l'émission commence, on est dans les coulisses. Une jeune fille qui a appelé, pourquoi ?
De 21 ans, qui est expatriée à Prague, qui voulait amener de l'exotisme tchèque dans l'émission.
Mais à la demande de qui ?
Bah, c'est une auditrice.
Mais bon, bah d'accord, si vous voulez, oui, appelez-la. Mais là, je suis avec des gens qui se sont déplacés ici au Bel Air. Bonsoir, bien sûr, en direct du Bel Air, un café dans la maison de la radio, double avantage. Vous, monsieur, vous êtes arrivé le premier, vous êtes arrivé tôt. Qu'est-ce que vous attendiez de ce moment-là ?
Mais j'habite à côté, donc. Mais en plus, j'ai appris qu'il y avait Nicolas Philibert qui
est. Qui vous doit de l'argent ?
Non, non, il me doit rien. Et en plus, il a fait déjà un documentaire sur Radio France, donc.
Alors, vous l'imaginiez comme ça, Nicolas Philibert, ou pas ?
Moi, je l'ai souvent vu, alors, donc.
Les gens le trouvent beaucoup plus beau à la radio, donc on en parlera tout à l'heure. Ben, monsieur, merci d'être venu tôt. Vous êtes arrivé dès 17h hier pour nous voir.
Ah non, quand même pas. Non, non, non.
Vous êtes le groupe le plus jeune. Qu'est-ce qui vous amène ici, vous ? Qui est le responsable de ce groupe de jeunes ?
Personne.
Il faut hiérarchiser les groupes, c'est très important. Il faut de la hiérarchie dans les choses, il faut voter, il faut une cagnotte, il faut qu'il y en ait qui les puissants écrasent les plus faibles. Qui est le plus puissant d'entre vous ?
C'est moi, je suis sûr. Ouais.
Alors, vous, qu'est-ce qui vous a amené ?
On voulait vous voir, Edouard.
Ah, c'est très beau. Et alors, vous êtes deux frères jumeaux ?
Oui, c'est vrai.
Lequel est le plus jumeau ?
C'est moi. C'est lui aussi.
Et vous, parlez-nous, dites-nous, c'est votre chance, c'est maintenant, dites-nous deux choses sur vous.
Bah, déjà, je vais bien.
Alors, on rassure tout le monde qui demandait comment va ce jeune qui parle depuis quelques minutes. Je sais qu'il y a des inquiétudes. Le standard est harcelé de demandes. Comment va-t-il ? Il va bien. Donc, on rassure bien sûr les parents, les voisins, la famille des voisins, les voisins de la famille des voisins et les parents de ces voisins-là. Autre chose ?
Non, bonne émission.
Bonne émission, ce souhait bien sûr nous porte. Et vous, mademoiselle ? Qu'est-ce qui vous lie à ces gens ?
On était au même lycée ensemble.
Alors, si on ne se quitte pas après lycée, c'est qu'il y a beaucoup d'amitié. Parfois, et ça peut être beaucoup plus que ça. C'est un sentiment qui peut naître au lycée et s'épanouir à la fac. Est-ce que c'est le cas ?
Non, ça s'arrête à l'amitié.
Bon, loupé, hein ?
On n'est surtout pas dans les mêmes facs, surtout.
Voilà, mais on peut se retrouver le soir, on y va. Merci les gars, mademoiselle, merci. Je retrouve la table d'invité. Je commence ce que je fais, parce que je me suis aperçu qu'à la radio, si on raconte pas ce qu'on fait, ça donne très peu. Nicolas, vous êtes bouleversé, Nicolas Philibert.
Ah bah oui.
Il y a un auditeur qui vous attend depuis...
Mais en plus, je me demande comment il l'a su, parce que c'était pas annoncé.
Non, comment il l'a su ?
Il a des antennes ?
Comment vous le saviez ?
Il ne le savait pas.
C'est encore plus beau. C'est magnifique.
Il l'a pressenti. Oui, peut-être que monsieur l'a peut-être deviné. Peut-être il y a des Eugénie, baladez-vous avec le micro quand même à travers vous. Charlotte Bruel, vous êtes directrice de la compagnie des bateaux mouches. On va parler avec vous. C'est les 70 ans des bateaux mouches. Oui.
C'est les 70 ans des bateaux mouches ce week-end. Oui.
Eugénie, quitte à faire passer un micro, prenez un qui ne soit pas devant. Quelqu'un, Eugénie, habituez-vous à vous faire engueuler, même si j'ai tort. C'est un principe des systèmes hiérarchisés. Vous n'avez pas... Voilà. 70 ans des bateaux-mouches, j'ai appris en préparant longuement cette émission, depuis, le jour et nuit depuis, pendant, depuis une semaine, que le nom mouche, c'est pas du tout quelqu'un. Les bateaux-mouches à Paris, je rappelle les bateaux-mouches, hein, si vous venez sur Paris, qui est la... capitale de la France, Ville-Lumière, la Tour Eiffel et Folies Bergères, on peut faire du bateau. Le deuxième monument le plus visité, c'est vous. Enfin, pas personnellement, les bateaux.
Je vous remercie. Pardon. Pas personnellement. Le quatrième pays en plus visité, oui, de France, oui.
Et ce sont les bateaux. Alors, c'est quoi la différence entre tous les bateaux sur la Seine ? Il y a quoi ?
Il y a les bateaux mouches et les autres.
Très bien, c'est un sens du commerce. Et ce nom mouche, c'est pas du tout quelqu'un alors mouche.
En fait, c'était un canular de mon père, mais à la base, c'est le nom d'un quartier de Lyon. où était construit le premier bateau qui était le bateau de l'exposition universelle.
Et votre père a fait croire que c'était un hommage au préfet Mouche.
Exactement.
Parce qu'il y a le préfet Poubelle qui a donné la poubelle et s'est dit.
Exactement.
Et le préfet Eiffel, le préfet Louvre et tous les préfets qui
donc
ont donné.
Donc il a inventé un personnage, il est allé chercher au puce un plâtre représentant ce personnage et a fait une grande fête.
Et ça a permis, vous croyez que ça a aidé au lancement?
Ben, ça a fait un premier buzz déjà parce que les gens ont fait la fête. Et après, surtout, quand les gens se sont aperçus que c'était un canular, c'est ce qui a le plus marché. Oui.
Les bateaux mouches, c'est ceux sur lesquels il y a un pont supérieur par rapport aux autres bateaux?
Exactement, tous nos bateaux promenades, en fait, il y a 15 bateaux dans la compagnie. Les bateaux promenades, c'est des gros bateaux pour avoir un pont inférieur où vous êtes au chaud l'hiver et un pont supérieur où vous pouvez être au vent.
Ah, c'est beau d'être au vent de la Seine. À votre droite, la famille Boukrieff, qui est aussi invitée. Bonjour.
Bonjour.
Qui voulait réconcilier le cinéma et les enfants.
Mm-hmm. Absolument.
Et pourquoi est-ce que les enfants ont mauvais goût
Pourquoi les enfants aiment aller voir des merdes. C'est pas les enfants qui ont mauvais goût, c'est l'offre qu'on leur fait qui est de mauvais goût.
Alors, dans ce film, dans le livre, les 100 grands films pour les petits, vous vous adressez aux deux, il peut être lu aussi par les enfants. Pourquoi vous dites que c'est pour les enfants de 3 à 8 ans?
Parce que c'était délicat de savoir à quel moment, quel type de film on conseillait. Et on s'est dit, on va s'arrêter au CE2 dans un premier temps. Et puis après, c'est un autre type de poétique qui va rentrer là-dedans. En
fait. Alors, on va voir, Lydia, Nicolas Boukrieff, les films que vous conseillez. Musky... Je vais faire des vraies questions France Inter. Chanteur ou rappeur? Pardon, excusez-moi, j'ai honte de cette question.
Les deux.
Il y a deux personnalités en vous, ouais. Quoi. Hein.
Deux, trois, quatre. Ouais,
quand vous rappez, par exemple,
ouais.
C'est le chanteur qui rappe?
Oui, c'est le chanteur qui murmure.
Voilà. Et ce chanteur-là, ce qu'il dit, c'est l'auteur qui lui écrit?
Non, c'est l'auteur qui prend rendez-vous avec le chanteur.
D'accord.
D'abord.
Mais derrière l'auteur, il y a l'être humain ou pas?
Non, il y a moi.
Il y a une machine à écrire des textes.
Je suis une machine.
Vous écrivez oralement directement ou pas?
Ouais.
Vous êtes parti dans des aigus qu'on ne retrouve pas du tout dans vos chansons.
Je peux aller, touche 24 notes.
Ouais, vas-y. Et en bas, ça donne quoi? Oh. Ah oui, c'est Ivan Rebroff. Je fais tout de suite un petit débrief du début de l'émission avec mon ami Pat Lerat, qui est un habitué. Pat, tu as compris ce que j'ai essayé de faire? Je voulais faire un tour de table.
C'est beau.
Ça t'a plu?
Ça m'a plu, c'était formidable.
On a l'auditrice tout de suite. On passe tout de suite. Attendez, quoi?
Que des grands invités.
Énorme succès sur cette idée de faire un tour de table pour lancer l'émission, afin que ce soit plus clair. Qui va être là? Qui va parler? Qui va s'exprimer? On s'y retrouve. Beaucoup d'appels d'auditeurs qui me disent, enfin, on s'y retrouve dans cette émission. Mais déjà, Béranger est à Prague, dans un bar à Prague. Béranger, bonsoir.
Oui, bonsoir, monsieur.
Oui. Appelle-moi maître, ça va beaucoup plus vite. Béranger, un bar à Prague, est-ce que c'est pas une façon de voir cette Europe de l'Est d'une façon un peu caricaturale?
Un peu, on est un peu là-dessus, quoi. On est sur des bières pas chères, de la viande cuite dans l'eau, mais...
On est quand même allé au cimetière juif de Prague, on est allé voir la tombe de Kafka, tout ça. On est juste dans la bière et la connerie.
Pas encore. Non, on est allé se balader au bord de l'Artavra, de tout ça. Et on a fait la tombe de Kafka. Mon guide personnel m'annonce qu'on a fait la tombe de Kafka.
On l'a fait, donc on peut biffer sur la liste des choses à faire.
Demain, ça sera le quartier juif.
Béranger, j'ai l'impression qu'on vient un peu se perdre à Prague au lieu d'essayer de se reconstruire une identité européenne. J'ai l'impression que vous voulez un petit peu, hein?
C'est pas faux là.
L'Europe ne se fera pas sans toi.
Je suis basé à Munich et Munich, oui. là je suis Munich m'a perdu et je suis perdu dans cette Bavière qui se referme et j'ai préféré m'exiler à Prague pour essayer de retrouver cet esprit européen qui nous berce.
Béranger, vous avez ressenti ce soir le besoin de nous appeler en direct à France Inter. Qu'est-ce qui vous meut?
C'est dur à vous dire là.
Essayez. Les choses les plus dures sont les plus belles.
C'est de partager ces émotions qu'on peut voir qu'à l'étranger, quoi, que ces cultures qui s'entremêlent, cette incompréhension totale. Le tchèque, c'est un délire, mais et puis voilà, vous faire partager tout ça et puis voilà, je sais pas trop, je peux pas trop vous répondre, monsieur. Enfin, monsieur, ça c'est le réflexe,
maître,
de l'étudiant.
Vous vous sentez un peu seul dans ce bar tchèque, Béranger?
Non, je suis accompagné de mes amis qui sont à côté là. Donc non.
On est sur des vrais amis, Béranger? Je suis pas sûr.
On est sur des vrais amis. On est sur des vrais amis, certains depuis plus longtemps que d'autres, mais la relation est pareille.
Est-ce que cette amitié a déjà été a été un petit peu au risque de quelque chose. Vous avez eu des preuves de cette amitié?
Oula. Oui, il y a eu, comme dans toute relation, il y a des choses, quoi. Oui, là, je pense notamment à tous ces gens qui sont autour de moi, quoi, qui me portent.
Béranger, j'ai l'impression que ce que vous appelez amitié aujourd'hui dans ce bar pragois est surtout une camaraderie étudiante qui va disparaître au fur et à mesure que la vie vous coltinera des rêves déçus, au fur et à mesure que vous allez affronter des choses plus graves, des douleurs plus profondes. Oui, ils vous laisseront tomber, mais d'autres viendront, Béranger. Je pense à François, Alain et tous ces beaux prénoms de nos régions de France. Pourquoi est-ce que Ghislain, le réalisateur, me fait des signes pendant que je suis dans une conversation? Qu'est-ce qu'il y a?
On a Jack.
Mais je m'en fous, je suis en train de parler avec Béranger. C'est des habitudes de radio, on fait quelque chose, on prépare l'autre. Alors salut Béranger, bonne chance dans un bar pragois, Béranger. C'est pas vrai, ils sont formidables, tes amis. Attends, je te lis une tribune. Béranger, tout va bien se passer. Et essayez de faire l'amour ensemble, c'est de toute beauté.
Merci à toi. Au revoir, Edouard.
Au revoir, Béranger. Bravo, mon vieux. Tout de suite, Prague passe la parole à la Maison de la Radio. Là, nous partons sur Jack qui est où? Jack qui est sponsorisé par les Atelier Mission qui veut absolument qu'on le passe. Jack, vous êtes où, mon vieux? Je rappelle que Jack souvent, ce comédien funambule, journaliste, Tintin reporter, se balade dans les rues et nous passe des gens. Vous êtes où, Jack?
Là, je suis sur les bords de Seine. Vous entendez parler de péniches tout à l'heure. Les péniches sont bondées. Tout le monde a envahi les toits des péniches parce qu'il doit faire trop chaud à l'intérieur.
Alors, on est sur une péniche privée. On n'est pas sur les bateaux mouches de Madame Bruel, là.
Non, le bateau mouche qui passe, plein de bateaux passent ici, ils font demi-tour. En fait, là, je suis sur un quai où il y a à peu près 3-4 amphithéâtres dans lesquels on danse la salsa, le tango argentin, la danse africaine.
Alors, c'est bien le quai Gino Rossi. Il y a beaucoup de gens qui dansent là-bas.
Oui, Gino Rossi, bravo. Et j'ai rencontré Jean-Jacques. Jean-Jacques, on va pas se mentir, vous êtes fait plaquer il y a 3 mois.
Comment?
Vous êtes fait plaquer il y a 3 mois?
Ouais, voilà, à peu près, ouais.
Et donc vous cherchez...
Je cherche après une petite dame, gentille et tout, et voilà, et c'est très dur. Ça devient difficile, alors bon, voilà, je suis plus très jeune. Hein.
Donc là, vous allez danser la salsa, le tango argentin?
Non, je viens regarder. Ici, je ne danse pas, je danse au Chalet du Lac. Je danse au Martin Pêcheur, à Champigny, un peu partout, mais pas sur les quais de Seine. Je viens voir, c'est tout.
Bonsoir Jean-Jacques.
Bonsoir.
Est-ce que c'est pas plus facile pour rencontrer quelqu'un de pas regarder, mais de participer déjà peut-être? Parce qu'on se méfie des gens qui regardent et qui ne mouillent pas la chemise, non?
N'entends pas.
Oui, bon, c'était pas non plus... c'était pas génial non plus. Hein,
j'ai pas très bien compris.
Non, ce que vous... je me disais, Jean-Jacques, à ce moment-là. Bonsoir, monsieur... Vous m'entendez?
Bonsoir.
Voilà, on est là dans un café. Non, parce que j'entendais que vous regardiez, qu'en même temps vous vouliez rencontrer quelqu'un. Mais peut-être
oui,
en dansant.
Oui, rencontrer quelqu'un plus... de gentil, et oui. Voilà. Ici je viens regarder les danseurs.
Oui.
Je ne danse pas ici.
Alors c'est plus facile pour rencontrer de danser soi-même.
Bah oui, bien sûr, mais sur les quatre scènes je ne danse pas.
Oui.
Je danse dans les salles. Bon. Voilà, mais pas sur les quais.
Mais vous êtes gentil vous-même, Jean-Jacques, ou pas?
Bah, je sais pas.
Ah oui, parce que vous dites que je veux quelqu'un de gentil.
Je pense,
Qu'est-ce que vous...
Trop gentil, hein?
Pas trop. Bon, alors qu'est-ce que... Quand vous abordez quelqu'un, vous lui dites quoi?
Bah, déjà, j'aborde quelqu'un quand je l'ai dans les bras, dans les salles de danse.
Oui.
Et puis, on parle, voilà.
En dansant?
Et... Comment?
Vous parlez en dansant ou...
Bien sûr, en dansant, oui, puis après aussi, bien sûr.
Quelles sont les meilleures danses qui permettent la conversation? Le tango, quand l'autre est courbé, il est éloigné?
Bien sûr, le tango, oui, bien sûr.
Alors dans
la valse, on ne peut pas trop parler,
oui.
Mais le tango, la rumba, voilà.
Alors on commence par...
Oui. Pardon?
On fait des remarques d'abord sur la façon de danser de l'autre, on lui dit, dis donc, bravo, non? On commence par quoi?
Oui, bien sûr, vous êtes mignonne, vous me plaisez beaucoup, voilà.
Ah oui, déjà, mais alors, d'abord peut-être le parfum, la façon de danser, non, on dit, vous dansez.
Ah oui, ça, j'aime bien aussi les dames qui ont un bon parfum, oui.
Vous marchez pas...
Il y en a pas mal qui ont des bons parfums et je leur dis.
Oui, et puis les autres, on leur dit pas, oui. Vous-même, vous parfumez, Jean-Jacques?
Je mets de l'eau de Cologne de temps en temps.
On est sur quoi? Plutôt
la parfum d'homme, bien
quelque
sûr.
Chose un peu lavande, un peu citronné, un peu vert, un peu boisé, un peu vétiver. Oui. des parfums masculins. Et dites-moi, alors ensuite, on susurre un peu à l'oreille, on lui marche pas sur les pieds?
Ah oh ben non, pas trop quand même, soit sur les pieds, on lui chuchote à l'oreille, oui. Ouais. Des...
C'est difficile le chuchotement, oui. C'est pas facile de chuchoter, c'est un art hein, d'arriver à parler pas fort pendant qu'il y a de la musique et de se faire entendre. On fait comme ça, on fait quoi?
Oui, dites... bien sûr, mais bon, ça dépend de la musique aussi. Bon, on peut parler en dansant, mais faut pas que la musique soit trop forte.
Et alors après, parfois, ben le... C'est mutuel. Et
on peut offrir une coupe de champagne, voilà, ça a déjà fait une approche.
Alors, vous avez la suite dans le rire que vous avez fait là. Je sentais que vous voyez la suite de la soirée.
Comment?
Oui, non, c'était pas. Et dites-moi,
un peu sourd, hein.
Oui, mais moi, c'est non, pas du tout. C'est parce que c'est. Et là, donc là, vous êtes un peu déçu parce que là, vous n'abordez personne là sur ce qu'est.
Bah, j'aborde personne, là, je suis pas en train de danser. Hein.
D'accord.
Et si c'est votre collègue qui m'a abordé, voilà. Et voilà.
Bon, bah, écoutez, bonne soirée, Jean-Jacques, bonne chance. Alors.
Merci bien.
Hein, merci de nous avoir causé avec nous un peu.
J'espère que vous allez me porter chance.
Eh bien, avec grand plaisir, Jean-Jacques. Je sais pas.
Et puis, oui. Kenavo, parce que je suis de Souge bretonne.
Kenavo.
Alors, on dit Kenavo en partant.
Absolument. Eh ben,
allez, Jean-Jacques, on y va. On y va, là, c'est parti.
Allez, au revoir, Kenavo.
Kenavo, il me faut un 10 pour digérer tout ça. Merci. Merci, Jean-Jacques, merci.
Dans l'univers, il y a des milliards de vies. Sur Terre, 7 milliards d'êtres humains. Peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux.
T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis t'as par le vice, mais c'est toi que je veux.
Y'en a plein, mais y'en a qu'une, c'est toi.
Je sais des choses que tu ne sais pas.
Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble.
Nous sommes de ceux que la rancune sait pas.
Dans l'univers, y'a des milliards de vies. Sur Terre, 7 milliards d'êtres humains. Peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux. T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis t'as ta part de vice, mais c'est toi que je veux. Y'en a plein, mais y'en a qu'une, c'est toi.
Je sais des choses que tu ne sais pas.
Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble.
Nous sommes de ceux que la rancune sait pas.
Même si notre amour raté devait renaître demain, elle m'a dit jamais je ne remettrai mon cœur entre tes mains. Jamais, jamais, n'oublie pas que quand tu l'avais, tu ne m'as laissé que du mal-être et des marques. On était jeunes, on pensait que s'aimer c'était se traiter mal. Pourtant dans l'univers y'a des milliards de vies. Sur Terre, 7 milliards d'êtres humains. Peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux. T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis t'as ta part de vice, mais c'est toi que je veux. Y'en a plein, mais y'en a qu'une, c'est toi.
Je sais les choses que tu ne sais pas.
Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble.
Nous sommes de ceux que la rancune sait pas.
On se dégoûte, on se combat jusqu'à ce qu'on bouffe les pissenlits. Notre couple succomba, ce désir puissant puis s'ennuie. Et le désir disparaît en même temps que la possession. Et les femmes de ma vie défilent en une étrange procession. J'y passerai seule la nuit sous le trait d'un jeune homme qui, quand la lune dort, le soleil lui, moi je ne vois qu'elle. Y a des milliards de vies sur Terre, 7 milliards d'êtres humains. Peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux. T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis t'as ta part de vice, mais c'est toi que je veux. Y'en a plein, mais y'en a qu'une, c'est toi.
Je sais les choses que tu ne sais pas.
Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble.
Nous sommes de ceux que la rancune sait pas.
Unis par cette danse que ta lumière peut apprendre à mon ombre. Un jour tu me donneras ton oui et tu prendras mon nom. Un jour tu me donneras ton oui et tu prendras mon nu.
Le film documentaire a un avantage sur le film de fiction, c'est que quand la lumière se rallume, si on a aimé le personnage et qu'on a été fasciné par les sujets abordés, on peut aller les rencontrer en vrai. J'ai eu la chance, comme ça j'avais vu Mondovino de Jonathan Nociter, j'avais été fou d'un personnage qui s'appelait Hubert de Monti, j'avais pris ma voiture pour aller sonner chez lui. Nicolas Philibert, c'est ça que je trouve qui me frappe le plus, parce que je trouve que c'est, on en parlait juste avant qu'on commence, que finalement, vous me disiez que vous abordiez vos documentaires quasiment comme des fictions, et vous y mettez autant d'imaginaire.
Ah, je dis quelquefois que le documentaire, c'est une autre façon de faire de la fiction, oui, c'est ça, oui, pour moi. Parce que pendant très très longtemps, on a dit le documentaire, c'est objectif, c'est le réel, etc. Mais c'est jamais le réel. Quand on
vous assumez la subjectivité, quoi.
Totalement, oui. C'est un regard subjectif qui s'assume, qui le dit, qui le revendique, et c'est pas copier le réel, c'est le façonner, c'est le réinterpréter, c'est le relire, c'est le réinventer.
C'est la différence avec le reportage, par exemple, qui lui essaye d'être le plus objectif possible, de coller. Ça veut dire quelque chose, coller au réel, par exemple.
Je ne sais pas si le reportage est plus objectif. Le reportage se prétend plus objectif. Ce n'est pas tout à fait pareil. Le reportage, on vous dit, c'est comme ça et ce n'est pas autrement. Alors que le documentaire, c'est une forme de cinéma où le cinéaste assume complètement sa part personnelle, sa singularité. C'est son regard. Il le dit, voilà, mon regard sur telle réalité.
Alors là, il y a 12 DVD qui sortent, accompagnés de bonus que vous avez refilmés après. On a même un invité bonus.
Mais oui.
Tout à l'heure. Est-ce que c'est vrai que vous dites la phrase « faites comme si j'étais là » quand vous filmez des gens? Je trouve ça formidable.
Ben oui, bien sûr, parce que souvent au cinéma, on dit aux gens « bon, vous regardez pas la caméra, hein, je suis pas là, ne faites comme si j'étais... » Et en ce qui me concerne, mes films racontent une relation à des gens. Un peu comme ici d'ailleurs, c'est cette relation aux gens qui est montrée dans mes films. Et donc je ne dis jamais aux gens ne regardez pas, je leur dis plutôt oui, faites comme si j'étais là, parce que dans mes films il arrive que on m'interpelle, on me regarde, il y a des regards caméra. Souvent, c'est quelque chose. Bien souvent, c'est banni, c'est honteux, les regards. Faut pas faire de regard caméra.
Il faudrait se faire oublier que la caméra soit pas là. Le réel sans nous.
Et pour moi, il s'agit jamais de me faire oublier, mais de me faire accepter. C'est déjà très différent. Se faire accepter. Donc, on peut me regarder. On a le droit de regarder la caméra. Alors, si la caméra devient trop, si le regard est trop insistant, trop. Peut-être pas, mais quand c'est avec... D'ailleurs, ça, les regards caméra, au fond, embarquent les spectateurs. Les spectateurs se sentent tout d'un coup concernés par ce qu'on voit, par les personnages, parce qu'ils nous regardent. Ça nous regarde, au fond.
Quand c'est utilisé en fiction aussi, c'est merveilleux dans les films de Godard, et après dans beaucoup de films contemporains, maintenant les gens s'en servent aussi.
Absolument.
Et le spectateur est maintenant assez aguerri, habitué à l'image, pour qu'il ne sorte pas de l'histoire. Même
mais oui, bien oui. sûr. Ben oui, c'est de jouer avec ça, avec ces règles-là. Godard, évidemment, a été le premier à pulvériser toutes ces règles grammaticales. Ben oui.
Alors, les gens vous ont... Est-ce que c'est... Mon son est normal, oui? C'est moi, pardon. J'aime bien me plaindre de la technique, comme ça, je suis tout le monde est stressé, c'est bien. Je me sers du direct d'une façon diabolique. Dites-moi, les gens vous ont... Vous aviez déjà 50 ans quand vous avez fait Être et Avoir, c'est vrai?
Ou tout J'avais à coup 50 ans, ah, oui, c'est ça, oui. Mais oui.
Et alors, on parle toujours des échecs qui déstabilisent. Vous vous dites que quand même, c'est assez troublant à ce niveau-là de succès, puisque ça fait 1 million et quelques d'entrées en salle.
Presque 2, oui.
Le portrait de cet instituteur, et tout à coup, les gens...
Le portrait, cette plongée dans une école, dans une petite école à classe unique en Auvergne. Peut-être que c'est vrai, si j'avais eu 25 ans, ça m'aurait peut-être tourné la tête, j'en sais rien. En même temps... Je sais, je vois que les films marchent ou pas. C'est, Il y a des films qui font des flops au moment où ils sortent. La règle du jeu de Renoir, quand c'est sorti, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, c'est un film culte, ça fait partie du patrimoine. Donc, aujourd'hui, on est dans une période comme ça d'immédiateté. Il faut que ça aille très vite. Il y a un turnover des films, etc. Mais les films, quelquefois, disparaissent de l'affiche, mais reviennent, restent. Parce que le cinéaste a une rétrospective, parce que donc il faut jamais enterrer un film trop vite, finalement.
Non, mais bien sûr. L'idée n'est pas de faire la louange de ceux qui marchent contre ce qui marche pas du tout. Tout à l'heure, vous parliez de la place. Est-ce que vous dites aux gens, faites comme si j'étais là, vous savez que je suis là, ne m'oubliez pas. Et puis il y a d'autres moments là dans le petit livre qui accompagne la réédition des DVD, vous dites qu'il y a des moments où je me demande ce que je fous là. C'est-à-dire, c'est quand quoi? Quand vous avez l'impression qu'il ne se passe rien, que vous ne vous sentez pas d'intimité avec les gens que vous...
Non, c'est parce que faire un film, ça ne va pas de soi. Ça veut, venir avec une caméra quelque part, ça ne va pas de soi pour moi.
Vous la sortez tout de suite, vous rencontrez les gens avant. Par exemple, que ça soit ici, vous avez fait un film sur la Maison de la Radio, un film sur les coulisses du Louvre. Comment vous travaillez
Je repère assez peu et je sors la caméra assez vite. Mais il n'empêche que je suis très, très attentif à la façon de présenter le film, de présenter le projet. Mais ça ne va pas de soi de braquer une caméra. J'ai fait un film dans une clinique psychiatrique, à la clinique de la Borde,
oui.
La moindre des choses, en 95. C'est un film que je n'avais pas vraiment envie de faire au moment où j'ai lancé ce projet-là.
Vous voulez dire qu'on a honte de sortir la caméra parfois? On se dit, on a l'impression de...
Parce que les gens qui étaient là, qui étaient dans une souffrance psychique, étaient là pour qu'on leur foute la paix. Et aujourd'hui, il y a des caméras partout. Il y a une espèce de on est dans un monde d'images. Les images nous envahissent. Les images et tout c'est d'une certaine manière tout s'est banalisé. Or, il me semble que le cinéma, c'est des images qui sont différentes du tout venant de l'image. Aujourd'hui, on est dans un monde de tout visible. Et pour moi, le cinéma, c'est quelque chose qui doit résister à ce tout visible, qui donne un sens, qui construit le regard. Peut-être que nos amis qui ont fait
les films
pour
les enfants,
ils seront sensibles à cette idée qu'il s'agit de construire le regard. Les films doivent construire un regard, proposer un récit, une narration, et justement résister contre surenchère folle.
C'est ça que vous parlez de nécessité. Vous attendez de sentir une nécessité. Alors, c'est quoi la nécessité? C'est le sujet? C'est des gens quand vous... Parce que même quand vous filmez Nénette, la fameuse Laurent Houtan de Jeanne des Plantes, c'est quelqu'un que vous filmez à qui vous êtes attaché? C'est le goût de quelqu'un?
Non, je ne la connais pas, Nénette, au moment où je... Tout d'un coup, il y a une nécessité à faire ce film-là. Et je ne sais pas dire pourquoi. Je ne sais pas vous dire pourquoi. Tout d'un coup, quelque chose s'impose. C'est ce film-là, c'est pas un autre. Et je peux rester deux ans dans le creux, dans un creux de la vague, sans désir de film. Et je n'en ferai pas pour des mauvaises raisons. Et si j'ai pas quelque chose qui, au fond, me semble nécessaire, j'y vais pas.
C'est très long, c'est très dur. Même en fiction, tout à coup.
Parce que c'est tellement dur de faire un film. Qu'il faut avoir des bonnes raisons pour le faire, des bonnes raisons entre soi et soi. Si on fait un film pour des mauvaises raisons, c'est-à-dire par...
C'est malin ou c'est machin. Oui,
voilà.
Et vous, Nicolas Bourrieff, ça vous est arrivé de vous lancer sur un film au milieu de vous dire, merde, c'était pas assez nécessaire d'être un peu perdu?
Il se perd en route.
Il se perd économiquement.
Non, mais c'est il y a un moment donné où même pendant la préparation, on sent qu'on n'est pas à la bonne place et il ne se fait pas. Je dois dire que dans les quelques films que j'ai pu préparer qui ne se sont pas faits, j'ai toujours trouvé ça tout à fait normal et logique. Il y a quelque chose qui manque, qui est une sorte de feu, de quelque chose de nécessaire, d'évident, et qui fait que s'il n'y a pas cette chose-là, le film n'aboutit pas, il ne se fait pas.
Alors ça, on enfin, sait, on
je souhaite qu'il ne se fasse pas.
Il y a pas mal de films qui sont annoncés, puis tout à coup qui ne se font pas, c'est qu'au dernier moment, il manque quelque chose et le système économique s'effondre complètement à quelques semaines du film.
On va dire pour ceux qui sont faits sans doute par des metteurs en scène qui ont cette tendance. Après, il y a beaucoup de films qui sortent qui feraient mieux de ne pas se faire.
Ça, c'est
notre aventure. Oui. C'est notre histoire dont on parle.
Non, mais on sent sur des tournages de fiction, à un moment, il y a, comme acteur, on peut être sur des films, on sent au milieu, on se dit merde, je sens que tout ça est artificiel, quoi, oui. Vous, non, c'est pas possible parce que vous êtes seul avec le. Vous êtes arrivé d'arrêter de tourner, de reprendre des mois après ?
Non, mais en tout cas, mes tournages s'étalent souvent sur 4 ou 5 mois. Ce qui, ça ne veut pas dire que je tourne tout le temps, mais je prends un peu de. Je fais des allers-retours, je tourne un peu, je prends un peu de recul, j'y retourne.
Alors, il y a des sujets comme les coulisses du Louvre, la maison de la radio. Même quelqu'un qui n'a pas fait de documentaire, de film, peut imaginer ce qu'il y a filmé, où se mettre, même s'il se trompe. Enfin, chacun peut avoir une vision de ça. Mais aller filmer Nénette dans une cage du Jardin des Plantes, on se dit, mais qu'est-ce qu'on filme? Qu'est-ce qu'il y a filmé là? C'est derrière une cage, derrière une vitre. Avant d'avoir vu le film, c'est quand même un projet stupéfiant. Sauf qu'elle voit 600 000 personnes quasiment par année.
C'est-à-dire que pour moi, il faut qu'il y ait le projet de film constitue une sorte de défi.
J'ai dit Nénette ou de Nénette?
Nénette.
Non, j'ai dit bien.
Nénette. Oui. Nénette. Si le film ne représente pas une sorte de défi de cinéma, un enjeu, un risque au fond, j'y vais pas. Au fond.
Alors
Nénette,
précisément,
pour le cas de Nénette, dans le cas de Nénette, il s'agissait de filmer cet animal qui est donc la doyenne des animaux de la ménagerie du Jardin des Plantes. C'est une orang-outan femelle. Elle va avoir 50 ans dans quelques jours.
Oui. C'est incroyable. Moi, je vais la voir de temps en temps.
Et donc, l'idée du film, c'était de filmer Nénette derrière la vitre de son
quasiment
espace,
du point de vue des visiteurs du Jardin
point
des Plantes.
Du point de vue des visiteurs. Donc, le son et l'image sont complètement disjoints. C'est-à-dire que c'est un film dans lequel on voit Nénette. Et on entend
les commentaires
des visiteurs.
Ça aurait pu être la Joconde qui doit en entendre aussi.
C'est exactement la même chose. La Nénette, c'est comme la Joconde. C'est-à-dire, c'est une surface de projection, au fond. Et ça raconte, c'est un film qui parle du regard. Qu'est-ce que c'est que regarder ? Regarder, c'est toujours, d'une certaine manière, se projeter. Et le cinéma, c'est ça, au fond. Quand on regarde un film, on le regarde à partir de ce qu'on est, à partir de notre enfance, de notre parcours, notre vie, nos voilà.
Vous épuisez les lieux, vous y retournez. Nénette s'est épuisée, les coulisses du Louvre, la maison de la radio, vous filmez jusqu'à l'épuisement, jusqu'au dégoût presque.
Non, tout d'un coup, jusqu'au moment où j'ai plus d'idées, finalement. Et puis il y a un moment où j'ai plus d'idées, je me dis, là, je vais commencer à me répéter, à radoter, donc stop. Essayons de.
Parce que la maison de la radio, là, c'est le contraire de Nénette. Là, tout à coup, là, c'est un espace quasiment de mètres sur mètres. Là, c'est un camembert de milliers et de milliers de mètres carrés de bureaux.
La maison de la radio, c'est l'inverse. C'est-à-dire, j'ai dû, pendant les 6 mois sur lesquels le tournage s'est étalé, j'ai passé mon temps à me freiner, à freiner mon appétit, parce que c'est un endroit extrêmement riche, foisonnant. Il y a des choses partout. Il y a 70 invités chaque jour, il y a des tas d'émissions, c'est absolument. Et donc, je devais freiner mes ardeurs.
Si parce que vous avez des rushs, vous avez des milliards d'œufs.
Pas tant que ça. Je monte mes films, mais j'ai pas tourné tant que ça. Non. Je me suis freiné avant de tourner. Ça sert à rien d'accumuler 2000 heures. Qu'est-ce qu'on en fera? Donc, j'ai tourné 50 heures en 5 mois à peu près. Pas plus. Des émissions.
Quand vous revoyez vos films, parce qu'ils sont tous réédités dans cette collection DVD, est-ce que vous les revoyez comment? Avec ce qu'il n'y a pas dedans? Vous dites, tiens, j'aurais dû rajouter ça, avec des regrets, avec du plaisir, avec quoi?
Je ne les revois pas. Je les revois rarement, sauf quand je suis obligé, parce que c'est une projection avec la sous-préfète et qu'il faut absolument être là. Mais autrement, si la sous-préfète n'est pas là, ou s'il n'y a pas une obligation comme ça, un peu mondaine, qui m'oblige à revoir le film en présence d'eux, je les connais, les films. Je les ai tournés, montés, je les connais par cœur et j'ai envie de voir les films des autres.
Nicolas Philibert, on va vous retrouver tout à l'heure avec l'invité de votre bonus DVD, qui est un infirmier de la Borde, c'est ça?
Non,
avec nous. Pas du tout.
Arnaud Vallée, c'est un infirmier psychiatrique qui travaille ici, à Paris.
Eh ben, on va le retrouver tout à l'heure, mais je voudrais rester avec vous sur ce thème juste avant de passer un disque. Si la sous-préfète n'est pas là, si la sous-préfète n'est pas là, les choses n'ont pas lieu. Le costume n'est pas obligatoire, pas besoin de mettre les patins, pas besoin de serrer le nœud de la cravate, pas besoin de faire beau, de faire propre, pas besoin de rassurer. Si la sous-préfète n'est pas là, la vie peut aller son train. Doudou Bijou, à tout de suite.
Gotta find myself a couple of drinks. Red, red wine, you make me feel so fine.
Red, red, red wine, make me feel so fine. Red, red, red wine, I got troubles on my mind. Red, red, red wine, make me feel so fine. Red, red, red wine, I got troubles on my mind.
I went down the street to find myself a couple of drinks, hanging around with my homies, having fun together, a real pleasure, thinking about what I have to do to get happiness back in my life again. Sometimes some brewish can do this, bro. Red, red wine can make you feel so fine. Chase it blood, everything comes from God.
Red, red, red wine, make me feel so fine. Red, red, red wine, I got troubles on my mind. Red, red, red wine, make me feel so fine. Red, red, red wine, I got troubles on my mind.
Party time, literally in the morning with the red, red wine. I didn't feel that fine, not even better, but whatever. We rolled out of troubles, it's like the rumble in the jungle. But the thing is when I'm feeling sad, I will always get some red, red wine, yeah, and that's a fact.
Red, red, red wine, make me feel so fine. Red, red, red wine, I got troubles on my mind. Red, red, red wine, make me feel so fine. Red, red, red wine, I got troubles on my mind.
Retour plateau, c'est le fameux retour plateau que les gens espèrent et craignent à la fois. C'est très beau ce qu'on craint, qu'on espère, comme les sentiments qui emprisonnent et nous libèrent. Je crois que c'est une chanson de Bachung qui emprisonne et nous libère. Et là, l'antenne, on la craint et on l'espère, comme ça. Nicolas Philibert, vous montriez une phrase qui est de vous, là?
Non, c'est une phrase qui m'empêche de dormir depuis quelques jours. Pourquoi oppose-t-on couramment le sucre en poudre au sucre en morceaux, alors que le sucre en poudre est beaucoup plus en morceaux que le sucre en morceaux?
Des réponses? Dans la salle, il y a toute l'équipe du théâtre Antoine qui est là. Vous avez des réponses? Amit, t'as une réponse? Hein? Cette problématique, fait tourner le micro, Génie. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez qu'il y a une parenté de sucre, plus sucre en poudre, sucre en morceaux? Est-ce que la poudre, c'est des morceaux de morceaux?
Ah, ça devrait être certainement des morceaux de morceaux.
Donc vous adhérez complètement, Amit, tout de suite, oui, faites passer le micro, Génie. Régis?
J'adhère complètement à cette idée, oui, c'est des morceaux, c'est 1000 morceaux.
J'ai l'impression que cette vérité, vous y adhérez, mais elle vous fait souffrir. Pourquoi ?
Bah parce que c'est nous, hein, on est en mille morceaux, sinon...
D'accord, vous êtes plus en poudre qu'en morceaux. Devant vous, la maman de JB qui est là, qui arrive d'Avignon.
Bah on finit tous en poudre et en morceaux.
Donc. Très bien, merci. Oh, c'est sans...
C'est une phrase, c'est une phrase de, d'André Labarthe, qui était un grand...
Un grand spécialiste de cinéma, cinéaste. Voilà. C'est, oui, oui. C'est lui qui avait fait tout le film, les portraits de cinéastes.
Oui,
il y a un
sûr.
Portrait de Cassavetes magnifique.
La célèbre collection cinéma de notre temps.
Oui. Voilà. André Labarthe, poudre et morceaux. Charlotte Bruel, rebonsoir. Je rappelle que Charlotte Bruel fête les 70 ans de la compagnie des bateaux-mouches, cette compagnie qui est basée sur un énorme mensonge, puisque mouche n'a jamais existé, n'est pas du tout un préfet de police. Il y a 2 500 000 visiteurs chaque année.
Il y a entre 2 500 000 et 3 millions, oui.
Sur 15 bateaux.
Sur 15 bateaux.
Ils sont bien rentabilisés, ces bateaux, Charlotte, je vous félicite.
Dans 5 bateaux-restaurants.
5 bateaux-restaurants.
Oui, maman cuisinait très mal.
Est-ce que...
C'est vrai.
C'est vrai, à cause de ça. Vous... Est-ce que vous vous mettez parfois sur un pont de Paris, vous regardez votre flotte comme un armateur grec?
Je me mets
grec.
À l'avant et je fais tête de proue en pensant au Titanic, en espérant que tout aille bien.
Ils sont rangés où, ces bateaux?
À l'Alma, c'est-à-dire au bout du triangle d'or, pont de l'Alma.
Ils sont tous là la nuit?
Tous là, on a tout rangé ici.
C'est comme ça doit être beau, le retour...
En fait, il y a toujours au moins 4 bateaux qui partent au chantier, parce qu'en permanence, il faut les refaire, les reconstruire, les reformer. Donc, il y a au moins 4 bateaux en chantier en permanence.
Ça doit être très plat, ces bateaux-là, parce que la Seine n'est pas profonde.
La Seine n'est pas profonde, c'est des bateaux à fond plat, en général. Des grands bateaux de 50 mètres sur 10 mètres et pour passer le bras de la Monnaie.
Alors, il est où, ce chantier ?
J'en ai plus. Il y en a plusieurs, le chantier de la Haute-Seine, à côté de Roissy, par exemple.
Alors, Charlotte, pour des gens qui n'auraient pas l'occasion de prendre les bateaux mouches, pour des raisons géographiques ou économiques, je vais vous demander de nous faire un tout petit parcours. Là, on part d'où, là? On part de quel endroit?
Vous partez du pont de l'Alma et vous revenez au pont de l'Alma.
C'est parti, alors. Qu'est-ce qu'on voit, là? Sur ma droite, JB, qu'est-ce que je vois?
Ah, vous êtes dur.
Gardez votre micro. Gardez votre micro. Qu'est-ce que je vois?
Vous passez devant les Invalides.
Oh, Napoléon! Ah non, il est mort, oui.
Vous passez donc devant le pont, le plus beau pont de Paris.
Le pont Alexandre III.
Le pont Alexandre III. Vous dirigez.
Pourquoi c'est le plus beau pour vous?
Parce que j'ai choisi.
Très bien, vous avez raison. Votre choix est souverain.
Je vous remercie.
Ensuite.
Après, vous allez donc en direction du pont Neuf et vous allez passer devant le Louvre et devant le musée d'Orsay.
Ayez la gentillesse pour les gens qui ne parlent pas le français, qui parlent que l'anglais, le japonais, le chinois, le russe,
de faire parler dans, s'il vous plaît. Vous êtes dur.
Quelqu'un parle une autre langue, peut traduire? Est-ce qu'il y a des gens qui parlent chinois, russe ou japonais ici? Les pays, à part les francophones, quelles sont les nationalités que vous avez le plus dans vos bateaux, Charlotte Bruel?
Le monde entier. L'Asie, l'Amérique, l'Afrique, le monde entier intégralement vient au bateau mouche.
Est-ce qu'il y a, lorsque j'étais adolescent, parfois des jeunes sur les ponts qui jettent de la farine ou des œufs?
C'était vous alors, c'était vous.
Non, c'est-à-dire qu'on ce qu'on faisait, c'est qu'on montrait juste un œuf aux gens qui passaient, on ne le jetait pas.
C'est pour ça que sur le pont supérieur, les dîners se sont arrêtés.
C'est vrai.
À cause des chenapans comme vous qui jetiez de la farine. Vous êtes chopé. Qui jetaient de la farine et des œufs, donc c'est dangereux.
Ah oui.
Et on a arrêté les dîners sur le pont supérieur à cause de ça, oui.
Ils sont couverts maintenant?
Non, le pont supérieur est pour un rooftop et puis vous êtes à l'intérieur du pont principal pour dîner. Et les cuisines sont en dessous parce que chaque bateau a sa cuisine.
Alors le plus beau, c'est la nuit quand même, non? Parce que c'est magnifiquement éclairé.
Le plus beau, c'est tout le temps. Le plus beau, c'est au matin. Le plus beau, c'est quand il y a des orages. Le plus beau, c'est quand il fait très beau et que vous êtes à la tombée du nuit sur le pont supérieur. C'est tout le temps.
C'est vous qui éclairez, parce que les bateaux eux-mêmes éclairent les façades.
Les bateaux éclairent les façades, mais après être passé, comme mon père était grand résistant, il avait accès au projecteur de la DCA allemande. Résultat, on avait au départ des lumières qui crachaient une lumière très blanche sur Paris. Et très
comment vite. Ça, il avait accès
Il était grand résistant.
Oui, donc,
après la guerre, il a récupéré les projecteurs.
Ah.
Donc, comme Paris était très sombre à cette période-là, ça illuminait Paris. Bon, une lumière un petit peu blafarde, mais qui montrait les monuments. Et peu à peu, on est passé au LED, à une couleur spéciale de LED pour nous, qui adoucit et qui, étant donné les énormes efforts qu'a fait Paris pour bien illuminer ces monuments, je pense que voilà.
Mais c'est encore très beau, le bateau sur les quais de Seine, le bateau du bateau mouche le soir. Comme
oui,
ça,
oui, ça donne encore une lumière. Et les gens qui dansaient à côté de votre collègue tout à l'heure ont dû voir régulièrement les bateaux allumer les ports.
Depuis que vous êtes enfant, vous êtes sur les bateaux?
Oui.
Vous n'êtes pas née sur un bateau?
Presque, mais pas tout à fait. Non, je ne suis pas née sur un bateau, ni mes enfants.
Parlons de ce métier méconnu, commandant de bord d'un bateau-mouche. C'est toujours le même parcours?
C'est toujours le même parcours. C'est 1 h 15 de parcours à peu près. C'est toujours le même parcours. Et mais c'est toujours différent, parce qu'il y a des lumières différentes et tous les moments de la journée sont bons à prendre.
Il y a des accidents parfois. Souvent les accidents dans les bateaux-mouches sont liés à quoi? Changement d'itinéraire, problème de boisson dans la capitainerie, mauvais temps?
Beaucoup, beaucoup de problèmes de boisson dans la capitainerie, oui. Bien évidemment.
Non, mais il y a des...
Et des gens qui vont dans l'asile psychiatrique, voilà, et qui
mais il n'y a pas une histoire... Non, c'est pas vous, c'est les péniches. La dernière fois, c'est une péniche qui s'est pris un pilier de pont.
Ça arrive. C'est les ponts qui nous rentrent dedans comme les arbres sur le bord de la route.
Quels sont les incidents qu'on peut avoir à bord d'un bateau-mouche?
On a surtout des gens qui se fâchent et qui veulent sortir du...
Ah oui, c'est difficile. Veulent descendre. Oui.
Qui veulent descendre et donc qui pensent qu'il est nécessaire de sauter à l'eau pour descendre parce qu'on ne supporte pas sa belle-mère dans un déjeuner à table, ce qui est arrivé il n'y a pas très longtemps.
Et alors, et la personne s'est jetée à l'eau?
Oui.
Bon, on peut nager dans la Seine. Moi, j'ai traversé la Seine à la nage.
La Seine a été bloquée, les pompiers sont arrivés. Ah bon. Le monsieur est monté sur les berges et puis on l'a amené au violon direct parce que c'est une bêtise. D'abord, il peut mourir.
C'est une jolie expression à l'ancienne, au violon. J'aime bien, ça fait penser à des films avec Peter Sellers. Charlotte Bruel, parlons maintenant du fort potentiel érotique du voyage sur la Seine en bateau-mouche.
Il est évident.
Je vous remercie d'être passé. Maintenant, il y a plein de choses différentes. Vous faites de la pétanque, il y a des combats de boxe, je vois, sur les toits des bateaux. Il y a un rooftop, Mademoiselle Mouche. Nous sommes vraiment rentrés dans le troisième idée.
Oui, exactement, tout. On veut redonner les bateaux mouches aux Parisiens. Donc
Qu'est-ce que cette phrase publicitaire?
J'adore.
Ça vous allait très bien.
Ah, c'est ça. Oui, je l'ai trouvé toute seule, jour.
Qui leur avait enlevé? Ça peut aller jusqu'où? Imaginons qu'un bateau, comme un peu dans la chanson de Ferré, sur l'île Saint-Louis, qui s'enfuit. Si un bateau mouche s'enfuyait de Paris, il pourrait aller jusqu'à
Conflans-Sainte-Honorine.
Alors il continuerait, il prendrait la mer.
Il prendrait la mer et même on irait jusqu'aux Amériques. Voilà.
Non, mais ça tiendrait jusqu'où, vous pensez, avec le fond un peu plat?
Le dernier jusqu'aux États-Unis, sans problème.
Très bien. Merci beaucoup. J'ai pas de chute, j'aurais dû faire un truc avec une chute et une autre musique. Est-ce que Nuski est prêt à 3 mètres de moi? Tout son management m'a dit prévenez-nous au moins un quart d'heure avant pour que Nuski sorte de sa loge.
Je suis prêt, j'ai une loge fumoir, je suis prêt.
Nuski, quand on se lance dans la musique, dans le rap, on est obligé aussi d'adopter un peu un comportement de rappeur, un statement avec des exigences, sinon il y a un problème de crédibilité. On est obligé d'être un peu dur, un peu renfermé?
Ouais, dur comme le rock.
Est-ce qu'on doit péter des chambres d'hôtel?
Ouais, mais on n'était pas le premier dans le rap, je pense que comme je te dis, le rock, je pense qu'ils sont allés beaucoup plus loin que nous. Finalement, on est gentils, je crois.
Vous êtes très gentils par rapport au grand,
je crois, ouais. Moins d'héroïne.
Tu as saccagé 2-3 trucs récemment?
Non, je fais attention à tout. Je nettoie même après.
Oui, c'est ça, c'est le mec qui nettoie la merde des rockers derrière lui.
Ouais.
C'est un extrait d'un album ou pas?
Oui.
Eugénie.
Oui, c'est extrait.
Mais c'est l'extrait de quoi? De Paname? Non, Paname, c'est la chanson.
Le monde des premiers albums.
Oui, mais parce que moi, je te connais depuis... Mais ce qui sortait avant, c'est la première fois que tu es 126 sur celui-là?
Oui.
Ah oui,
C'est mon premier album solo, quoi. Ouais, solo.
C'est vrai que tu seras le 30 août à Lyon, comme dirait Michel Drucker.
Oui,
le 13 septembre à Nantes et le 3 octobre à la Gaîté Lyrique.
Grave.
Est-ce que tu avais improvisé ton truc qui était ou sur Combini ou je sais pas quoi
Non, très peu d'improvisation. L'improvisation, c'est pour l'écriture. Hein.
Je me lève pour les crasseuses, pas pour les croissants. Au contraire, pour les croissants, pas pour les crasseuses.
Au contraire.
C'était fou, et visuellement, c'était fou aussi en danse.
C'est pas mal. Ouais. C'est la vérité.
C'est très bon. Toi,
merci.
Nuski, c'est Paname ou vivre?
C'est Paname.
Merci. Ici, au bel air, dans lumière, dans la nuit.
J'suis tombé dedans quand j'étais petit. J'y ai donné tout mes tifs. Nique les soirées sélectives. Ces gens
temps devant l'épicerie. J'arrive, y'a un mec qui raconte sa vie. Il lui dit j'ai un appart dans le 16. D'habitude les filles, je leur dis next. Toi t'es ma princesse, on fera l'amour sans complexe. Elle lui dit là j'attends mon mec. C'était la première fois mais elle m'habitue sans stress. Jeune fille en détresse, tu ne peux plus rentrer sans métro. Mais ta disquette, je la connais. Me parle pas japonais. Pour elle, les sentiments, c'est le tonnerre. Elle veut de l'amour et la colère. Quand elle dit ce qu'elle veut, je sais que je n'aurai jamais lui donner. C'est soit tu suis au collège, soit t'apprends à voler sur palam, 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 palam. Je me demande si t'as palam, 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 palam. Quand j'étais petit, depuis je me suis rasé les tifs. Les bourgeois devant les taudis. Je me souviens de ces mélodies comme de l'encre indélébile sur mes t-shirts et mes jeans. Je devais sortir avec cette fille, mais je suis sorti avec l'équipe. Et ça cotise pour un 2 litres. Je leur ai donné tous mes tips. J'ai un frérot colérique et un autre qui fait des tiges. Je sais pas ce qu'on avait dans la tête quand on s'insultait. J'étais sûr que j'avais raison et quand j'y repense, je me sens seul sur terre. Mais je veux pas faire la queue à la cave. Un jour je ferai le tour de la carte. Bien grandir comme une bouillie à la cave. Tu m'as rendu fou, j'étais gentil à la base. Je viens de la casse, voilà la classe. Si je m'en vais, demain qui me remplace. Inarrêtable, tout est possible. Si tu crois pas là, 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 si tu crois pas là.
De l'album qui s'appelle lui-même Nuski. Nuski est à la fois le rappeur et l'album, ce qui permet d'économiser son imagination et de ne pas chercher un deuxième mot. Il s'agit de ça.
Le mot existe. Comment ça s'appelle? Éponyme.
Éponyme est un mot dont on ne se sert plus guère dans
exactement.
Les émissions de radio après 10h du soir.
Dire,
et c'est dommage. Je me suis renseigné, on m'a dit que Nuski, tu devais t'appeler d'abord Husky du nom du chien aux yeux bleus et que tu t'étais trompé de lettre.
Oui. Oui.
Se tromper, ce n'est pas bien. Chien. Il ne faut pas se tromper. Non. Surtout que Raymond est éleveur de poules bio en Bretagne. Lorsqu'il est menacé de faillite, il songe à une idée folle, faire le buzz sur Internet en mettant en scène ses poules dans des vidéos. Passionné en secret par le théâtre, il tente de sauver sa ferme et sa vie de famille en s'inspirant de Cyrano de Bergerac avec son actrice fétiche, une poule dénommée Roxane. C'est ce qu'on appelle se tromper d'invité, puisque c'était le texte, le speech du film avec la Drucker qui n'est pas venu. Comme quoi, on peut faire beaucoup plus grave. Débrief, tout de suite un débrief. Un petit débrief. Tout va bien? Le téléphone, on a quand? On a la colocation de quand? Vous êtes sûr? Perrine, on a la colocation. Au début, quand on a lancé cette émission avec fracas, énorme encart publicitaire et de gros moyens, on avait chaque dimanche soir une colocation à Caen qui nous appelait. C'était Antoine, Lucas et Hugo. Ils observaient des choses dans l'appartement en face. Où en êtes-vous? Allô, la coloc de Caen?
Allez, bonsoir, Edouard.
Non, tu es trop enthousiaste. Il faut cacher cette joie. Tu sais, la joie peut être prise pour de l'arrogance.
Vous voulez que je la fasse plus triste?
Oui, parce que les gens joyeux, c'est louche. On se dit, ah, ça roule mieux pour eux que pour nous, ils doivent gagner plus de pognon. Non, ça va pas. C'est Antoine, Lucas ou Hugo?
Là, c'est Antoine.
C'est Antoine. Et donc, pas Lucas ni Hugo?
Non,
et
non
oui,
Antoine.
On a pris une identité. Antoine, que sont devenus tes colocs de début d'année, Lucas et Hugo? Est-ce que vous avez validé votre année de fac? Je répète cette expression que je n'ai pas employée depuis 76. Est-ce que tu as validé ton année de fac?
On a tous validé notre année.
Bravo, bien sûr, Antoine. Je vous demande ici, le public du Bel Air, de vous applaudir. Nous sommes une méritocratie qui, la Philibert, est bouleversée. Antoine, donc tu passes en quoi, toi?
En troisième année d'histoire.
Mais vous me l'avez passé alors que j'ai plus qu'une minute d'antenne. Bon, alors troisième année d'histoire, et Lucas Hugo vont vivre avec toi l'année prochaine ou pas?
Exactement, on reste ensemble.
C'est vrai?
Oui, oui.
Parce que c'est un mauvais chiffre, 3, c'est souvent 2 contre 1 quand même, non?
Oui, je sais, mais ça s'est arrangé avec le temps. Tout se passe bien pour l'instant.
Quels sont les paris sur l'année prochaine? Est-ce que vous aviez des voisins très bizarres? Vous aviez assisté à des scènes en face, des fantômes, non?
Oui, mais on les voit plus, donc les fantômes sont partis, donc l'appartement a sûrement été exorcisé. Ou...
Rappelons ce qui s'était passé dans l'appartement en face.
Eh ben, on voyait une forme spectrale le soir dans l'appartement d'en face qui ne bougeait pas à la fenêtre.
Alors, pendant quelques mois, ça avait été le sens de votre premier appel, Antoine Lucas Hugo, étudiant appelé à un brillant avenir dans un appartement de Caen dont il réglait chacun un tiers, était donc appelé à cette vie raisonnable, joyeuse et tranquille, lorsque soudain en face se signale une présence inquiétante, hein ?
Exactement.
Oui. Qui bougeait ou qui était juste une ombre statique ?
Non, qui bougeait pas, c'est ça qui faisait peur.
Voilà, parce que le mouvement fait moins peur que le statisme. Ça existe, statisme ?
Exactement.
Antoine, reste en ligne, on va se parler juste après le journal, parce qu'on fait exprès de faire qu'on t'appelle au moment où on n'avait pas le temps, parce que je crois que tu as des ennemis ici, dans toute l'équipe de production de Lumière dans la nuit. À tout à l'heure, Antoine. Antoine, la vie est magnifique, fais pas le con pendant le journal de 23h. Promis ? Promis, Antoine ? Répète, elle est belle la vie ?
Pour l'instant, ça se passe. Hein.
À tout de suite, le journal.
23h16, bonsoir à nouveau Edouard Baer, vous êtes au Bel Air.
Rebonsoir Mariam, en effet je suis au Bel Air, ils viennent de descendre un autre étage que le vôtre, un étage que l'on connaissait peu, c'est l'étage réservé aux réunions, aux délibérations du jury du livre Inter. Ils ne se connaissaient pas il y a encore un an, ils ignoraient tous les uns des autres, ils ont fait acte de candidature spontanée, c'est ça Vanessa?
Tout à fait, en écrivant une grande lettre.
Alors qu'est-ce que vous avez mis sur cette lettre?
Bah, c'est assez personnel. Hein. J'ai parlé de mes goûts et de mes dégoûts littéraires, surtout.
Alors comme on est en France, on va parler des dégoûts d'abord. Qu'est-ce qui vous déplaît?
Non, je ne peux pas le dire là. Pas de mépris pour...
Prenez un prénom d'emprunt. Chantal, alors, qu'est-ce que vous n'aimez pas?
J'ai pas aimé la littérature étrangère, surtout, je trouve.
Moi, je n'aime pas les étrangers en général, mais...
Je pense que c'est à cause des traductions, mais souvent je suis déçue par la littérature étrangère.
Alors votre voisin me disait, il y a trop d'étrangers, non seulement en littérature, mais dans le monde en général, le monde est peuplé d'étrangers. Et vous, c'était quoi votre lettre? Quel est votre prénom?
Bah oui, je suis américain déjà, donc... Merci.
Bien, ça commence bien.
J'ai écrit juste des choses que j'avais aimées, et surtout la littérature américaine, en anglais, donc c'est peut-être un peu mieux.
Alors parce que là, dans le choix, donc le prix du livre Inter, le président du jury, c'est Riyad Satouf. Il y avait déjà 10 livres qui étaient présélectionnés et qu'on vous a soumis. Nicolas Philibert, le documentariste, le réalisateur, est avec nous. Décrivez-nous un peu ce groupe qui est là, c'est cette vingtaine de personnes qui sortent de réunions, qui sont encore brûlants de ces combats, de ces réconciliations et de ce vote. Vous voulez un fond musical, Eugénie, envoyez quelque chose. Décrivez-nous ce que vous voyez.
Ah, j'ai une trouille terrible parce que j'ai jamais fait ça. J'ai le trouillomètre à zéro. Mais voilà, ils sont une quinzaine serrés autour d'une table. Ils ont l'air de se connaître depuis très longtemps. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment se sont. Évidemment, on va pas dévoiler. On saura quand demain. Demain à 8h. Mais j'ai envie de savoir un peu comment ça s'est passé, vos discussions. Vous vous êtes vus souvent? Est-ce que vous avez parlé quoi, juste une fois ou...
Ce que veut demander Nicolas, c'est aussi si des histoires d'amour vont naître, je pense. Que, bien sûr. Présentez-vous Juliette alors.
Juliette.
Moi, qui sait le faire? Une bouteille de rouge et on se lance.
On s'est rencontrés en fait une seule fois aujourd'hui. On s'est jamais vus avant. Et donc on s'est retrouvés à 3h, à 15h on a fait connaissance, on a commencé les délibérations à 16h, jusqu'à 8h.
Vous attaquez directement sur vous présenter ou pas du tout?
On s'est présenté, on a dit, de 15 à 16h on s'est présenté de façon informelle, et à 16h on a entamé en disant en gros c'était quoi nos coups de cœur et ce qu'on avait moins aimé. Et c'est parti comme ça.
C'est voilà. Touchant parce qu'il y a donc 2500 lecteurs passionnés qui ont dit tiens, moi je voudrais bien d'une façon bénévole lire 10 livres et essayer de faire monter, de mettre un écrivain en lumière.
On est tous des passionnés, tous des passionnés de lecture et puis peut-être de France Inter un peu aussi.
ça a dû être très beau entre vous parce que là il y a quelque chose qui se dégage là à vous voir qui est magnifique.
Alors, est-ce que oui on va...
Ouais, non, je pense qu'il y a un truc qui s'est passé. Je sais pas si on va se quitter après, on va peut-être former une communauté, faire un truc, je sais pas.
Moi, dans les 10 livres, il y a Serge Joncourt, Philippe Vassé comme auteur, Jean-Claude Grimbert, Léonore de Récondo, Elisabeth Filleul. Est-ce que vous, Maëlys de Kerangal, Sarah Schiff, Franck Bouys, Emmanuel Bayamaktam, est-ce que vous vous rappelez de moments spécialement passionnés d'engueulade ou pas? Qui s'est engueulé? Qui s'est été d'accord? Allons-y. Allez, on se ment pas, il n'y a pas d'image, personne ne saura, monsieur.
Ouais, il y a eu des livres qui faisaient pas consensus, mais qui élevaient des passions, ouais. Notamment le livre de Sarah Schiff, Les Enténébrés, qui est personnellement que j'ai trouvé très très fort. Et
vous êtes engueulé avec des gens.
C'était un livre qui a élevé des passions. Il y a eu d'autres livres. Je sais pas quel autre livre. Une vie en l'air.
Est-ce que sur certains livres, quand on n'est pas d'accord, on finit par en vouloir à l'autre presque d'exister, c'est son goût et remettre en question un très l'autre monsieur en face. Mais
c'est très ça devient très personnel au bout d'un moment.
Oui, c'est vrai.
On finit par en vouloir personnellement à l'autre. Il y a des alliances qui se créent. Et puis d'un tour de vote à un autre, il y a d'autres alliances qui se forment. C'est que c'est très très pervers comme jeu.
Mais non, parce qu'au début, on n'aime pas un film, et après on finit par détester ceux qu'il aime. C'est ça. Ouais. Et pour un livre, c'est
d'ailleurs,
pareil.
D'ailleurs, on n'est pas là tous ce soir. Hein.
Oui.
On n'est pas là tous les 24. Il s'est passé des choses.
Merci à vous d'être passé. Vous avez le droit de boire un coup après ce moment d'émotion. Je rejoins la table 34 devant les caméras 26 et 27 de Jean-Claude Larriaga. Je prends mon casque. Restez, ils sont descendus, ils viennent de descendre des étages, c'est très beau, ils sont encore dans la chaleur de cette délibération. Ils étaient filmés par le micro de Nicolas Philibert, qui était avec nous. Est-ce qu'on est au téléphone avec la colocation? Est-ce qu'on met un disque? Est-ce qu'on fait un point? Est-ce qu'on peut parler maintenant avec la famille Boukrieff? J'aime bien se dire ce mot, la famille Boukrieff, ça me rassure. Voilà. Un disque, tout de suite un disque. C'est un disque, comment dire, dans une époque où tout dématérialisé, c'est du son. Il n'y a pas de disque, il n'y a pas quelqu'un qui est en train de mettre un 33 tours sur un pick-up ou un 45 ou un 78 sur un gramophone. On a gardé l'appellation, même si la réalité physique n'existe pas. Tout de suite.
Lumière.
Alors que le jury du prix du livre Inter se remet doucement de la violence des délibérations autour de ce qu'on appelle des bouteilles, on va pas se mentir, nous avons une batterie d'appels téléphoniques, on va rappeler la colocation de Caen. Pat, mon camarade Pat me fait des signes incompréhensibles. Hein ? Quoi ?
Batterie, c'est un beau mot. Comment ? Batterie.
Batterie, c'est un beau mot, merci, merci. C'est un des plus grands lèche-culs de France, Pat, je vous le recommande. Pat, comment tu me trouves physiquement ?
T'es magnifique.
Superbe. Voilà, on va rejoindre d'abord Jacques Souvent dans la rue, puis la colocation canaise. Ouais, canaise.
J'ai adoré cette petite voix, t'es magnifique. T'es magnifique.
Il faut avoir des gens alors qui vous font des compliments.
La ça, voix Jacques, était sublime.
Vous êtes tout Jacques, oui, tout à l'heure, vous étiez sur les quais de Seine ou le dimanche soir, vers le Parti Nord aussi, les gens dansent.
J'ai avancé un petit peu, et là, il y a beaucoup d'informations. J'ai rencontré une jeune femme qui s'appelle Marine, mais qu'on appelle aussi la Gaîté.
Ah oui, beaucoup d'infos.
Et qui est une flower punk. Tu m'as dit flower punk. Et donc, quand quelqu'un est en bad, on t'appelle et la Gaîté débarque et tout va mieux.
C'est ça. Et en fait, même quand les gens m'appellent pas, en fait, je suis là. Genre, j'arrive à déceler le malheur des gens dans leurs yeux.
Ah bon ?
Ouais, je te jure. Genre, les yeux, c'est le portail de l'âme. Et moi, en fait, il n'y a que par là que j'arrive à communiquer. J'arrive très peu à communiquer par voix, à l'oral, si je suis sobre déjà. Et en fait, il n'y a que comme ça que j'arrive à communiquer avec les gens. Et du coup, j'arrive à voir au fond de leur âme et de leur dire, putain mec, mais ça se voit que t'es triste, arrête de faire genre.
Et toi, tu débarques et...
Du coup, je débarque et puis je leur dis, vas-y, je te paye un litre. Et déjà, ça va mieux. Et après, je fais, tu sais, mec, tu peux me dire tout ce que tu veux, je te dirai toute ma vie, tu dis toute la tienne, et puis on peut parler toute la nuit comme ça. Et généralement, je fais des super rencontres.
Parce que toi, tu donnes la gaîté, mais tu cherches aussi celui qui, ou celle qui va te rendre aussi, toi, la joie.
Ah bah, c'est clair.
C'est un problème, ça.
C'est clair, je suis la gaîté, mais en fait, je suis la gaîté pour tout le monde, mais personne n'est vraiment la gaîté pour moi. Et du coup, j'essaye de travailler sur moi pour que je sois ma propre gaîté, en fait.
Du coup, voilà. Bonsoir, la gaîté.
Ici, bonsoir.
Ici chagrin. La gaîté, alors j'ai entendu que tu intervenais surtout, tu décèles chez les gens qui ont l'air d'aller bien un problème caché.
Oui.
Est-ce que parfois c'est le contraire? Tu as l'impression des gens qui veulent avoir l'air d'aller mal parce qu'ils trouvent ça plus intéressant, plus intelligent, et tu les soupçonnes d'aller très bien?
Ah oui, et ça se voit en fait. Ça se voit en fait parce que généralement c'est les gens qui se plaignent.
Ah oui.
Les gens qui se plaignent beaucoup, c'est généralement des gens qui, finalement, c'est pas si fou que ça, en fait. Leur malheur n'est pas si fou que ça. Par contre, des gens qui sont seuls et qui ne parlent pas et qu'ils sont juste là en train de boire des coups ou se taper des traces de coke, là, on sait qu'ils vont pas bien.
Ah, c'est bien ce que tu dis. Si on a encore le courage de se plaindre, c'est que ça va pas si mal, quoi.
Bah oui, c'est ça.
Ah oui, c'est juste, t'as raison. Oui. Donc, en fait, c'est une fois qu'on n'arrive même plus à se plaindre, c'est là où ça devient emmerdant, quoi.
Exactement, c'est à partir du moment où t'as même plus envie de parler aux gens, t'as même plus envie de répondre si ça va ou pas, c'est là où ça va pas.
Et ils sont pas agressifs les gens? Quelqu'un qui est dans sa souffrance, dans sa peine, dans son coin, il y a des gens qui aiment ça, hein, qui aiment leur souffrance, faut pas la leur enlever, tu arrives, tu interviens, est-ce que tu te fais engueuler parfois?
En vrai non, c'est parce que j'arrive pas en mode bonjour, je vais te sauver la vie, c'est en mode bonjour, je sais ce que je comprends ce que tu ressens, je vis exactement la même chose, si tu veux on fait un bout de chemin de nos vies ensemble et puis peut-être qu'on s'apportera la gaieté qu'il nous faut.
Oh, dis donc. Mais alors tu sillonnes comme ça, tu sillonnes Paname le soir seul?
Non, en fait, j'ai un petit repère à Saint-Michel où je me pose et du coup, c'est là où je rencontre le plus de monde.
On peut dire où c'est?
Et généralement, c'est un repère. Je sais pas si je peux, mais c'est un bar après tout, hein.
Ouais, tu peux, c'est toi qui choisis. Moi, je m'en fous des histoires. Après, on ira en tôle, mais toi, ça te gêne pas, ça te gêne pas vis-à-vis des gens de le dire? Bon, alors dis.
Oh non, du tout. Le repère, c'est la Frange, ça, à Saint-Michel.
La Frange.
Et voilà, c'est un petit repère metal punk où il y a des gens qui boivent et qui racontent leur vie, c'est bien.
Bon, et tu penses que tu fais du bien aux gens?
J'espère surtout.
Oui.
Je peux pas me dire je suis le Jésus de l'amour et de la gaieté. C'est genre si je vois que j'apporte du bonheur à quelqu'un, je continue. Si je vois que ça sert à rien, tant pis, je passe à autre chose, quoi.
Eh ben bonne route, bonne balade. C'était chouette.
Merci
de t'entendre.
Beaucoup.
Salut.
Merci
la gaieté.
Merci beaucoup.
La gaieté.
Salut. Bisous à tout le monde. Je vous aime tous, les Français.
Les Français. La frange aux Français. La frange. La frange. Laquelle frange? Quels yeux cachés? Par quels cheveux? Quel regard perdu derrière une frange exagérément longue? C'est beau cette rencontre de Jacques Souvent là sur les quais. Pas taquessé là.
Très beau, hein, très beau, très poétique.
T'as bien aimé. Nuski était plus dubitatif, t'étais plus ricanant, Nuski, t'étais plus... Hein, t'es dans le cynisme, là.
Elle m'a fait doucement rire.
Ouais, tu trouves que c'est... T'y croyais pas trop,
si,
quoi.
Si, si, j'y croyais, mais...
Si on t'approche dans un rad en disant ça, ça t'énerve, toi?
Non, on va discuter, faisons un bout de chemin, comme elle disait, ouais. Discutons, essayons, en tout cas. Essayons la gaieté.
Et si on les guettait. Alors, est-ce qu'elle. On part pour quand tout de suite? Les colocataires de Caen, on les a eu tout à l'heure, et puis après, je sais pas pourquoi, il y a un journal à 11h qui était bien, c'est Mariam El Kurdi. Mais Antoine, Lucas et Hugo, on vous parlait tout à l'heure.
Oui, je suis toujours là.
Vous étiez c'était une coloc à 3 qui se termine seule. Je rappelle donc, en début d'année, il y avait des présences fantomatiques en face qui ont été résolues, peut-être à la suite de décès ou de changement de locataire. Parfois, l'un entraîne l'autre. Et aujourd'hui, cette colocation se remet.
Bah écoutez, Edouard, tout à l'heure, vous m'avez demandé si tout allait bien. Je dois avouer que j'ai menti. Hugo est en festival et il m'a envoyé une photo. Il s'est cassé le bras. Donc finalement, ça va pas si bien que ça.
Attends, il faut que les auditeurs digèrent un peu cette info là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent la radio, qui sont là, et c'est vrai que je disais non. Donc là, l'un des membres de la colocation qui répond au doux prénom d'Hugo s'est cassé le bras.
Exactement.
Est-ce qu'on a des détails sur quel morceau du bras d'Hugo est cassé ce soir? Quelles sont les phases
pour
de réparation?
On a juste reçu un snap, enfin une photographie.
J'entends bien.
Pour son père.
Oui, oui. Non, oui, c'est
on
ça.
On n'a pas plus d'infos que ça.
Oui, la génération snap arrive sur France Inter. Il paraît même qu'il y a des téléphones sans fil maintenant. On en parlera tout de suite après.
Oui, on se déplace à
l'heure. Hugo, on serait donc sur un bras qui est cassé, peut-être irréparable.
Bah, on ne sait pas, et puis il a probablement de l'alcool dans le sang, donc s'il repart danser et faire des pogos, ça va être compliqué.
Dans ces cas-là, quand on est trois copains, trois étudiants, qu'il y en a un qui va pas bien, son corps le lâche, qu'est-ce qu'on fait? Il y a la solidarité qui se met en place, une fraternité instinctive Comment
non,
ça se passe?
Non, chacun dans notre chambre, et puis les problèmes, ça reste dans la chambre, hein. Les lieux de vie, ça, c'est les lieux communs.
Chacun sa merde. C'est une belle morale, en tout cas, et une belle ambiance de colocation qui permet de durer plus longtemps. Merci pour ce message d'humanité et d'espoir, Hugo. Tu me racontais que quand tu as poussé Lucas dans l'escalier, il ne savait pas que c'était toi.
Hugo avait tenu la jambe de Lucas quand il montait l'escalier avec ses courses et il était tombé. Et ça fait partie des moments de douleur qui arrivent au quotidien.
Aujourd'hui, tu es un homme seul?
Non, Lucas est là, Lucas est là.
Est-ce que tu es plus seul avec Lucas ou tu es plus seul?
Non, je suis plus seul, hein, généralement.
Ah, parfois, il y a la solitude à plusieurs.
Non, là, on a un petit peu une solitude à plusieurs, comme on sait qu'Hugo est en mauvaise posture, mais bon.
Enfin, il en reste des morceaux et ce sont les plus beaux. Profitez-en. Au revoir. Très, très bonne soirée à vous à Caen. La vie est magnifique.
Bon courage.
Tu la prendras à l'hôpital en te faisant plâtrer.
On vous donnera des nouvelles, on appelle les morgues, les hôpitaux.
Mais merci. Au revoir.
Merci.
Salut les gars.
Au revoir.
Retour plateau, tout de suite au Bel Air. Oui. Pourquoi tu montes Nicolas, Pat? Ah si, je sais qu'il y a Nicolas Boukrieff qui est là. Quelqu'un se fasse engueuler, c'est le principe de ces missions. Nicolas Boukrieff, bonsoir, vous êtes là depuis le début de l'émission. C'est le principe de l'invité qui arrive à 10h et qui parle à 11h33. L'idée est de faire boire un homme metteur en scène, acteur. Et qui, est-ce que c'est plus agréable de parler tard dans une émission?
Ah, c'est beaucoup plus agréable.
C'est vrai?
Surtout dans une émission aussi agréable à vivre.
Mais alors parce que parfois, on se dit, par exemple, là il y a Arnaud Vallée qui est infirmier, qui est arrivé dans une telle forme extraordinaire à 10h du soir, j'ai honte de lui passer la parole que dans un quart d'heure, parce que toi tu es arrivé, Arnaud, très chargé d'énergie. Est-ce que ça t'embête de parler tout à l'heure d'ici 10 minutes?
Non, j'étais très chargé bien avant, mais...
Ah oui, parce que tu as une telle énergie, ouais. Une vitalité, une gaieté, c'est ouais. Tout le temps, c'était pas... Bon, tu l'auras.
Je serai là jusqu'à la fin de l'émission, merci.
Nicolas, alors j'adore, j'ai beaucoup aimé ce livre, Les 100 grands films pour les petits, de Max Linder à Tortue Rouge, de Lydia et Nicolas Boukrieff chez Arte Éditions. Donc on se disait, comment réconcilier les enfants avec le cinéma? Qu'est-ce qu'il faut leur montrer? Qu'est-ce qu'on a envie de leur montrer? Parce que le « il faut », c'est chiant.
Oui, exactement. Il ne faut rien du tout. Si les enfants regardent un film qu'on leur montre et qu'ils s'ennuient, il ne faut surtout pas les obliger à regarder le film sous prétexte que c'est un chef-d'œuvre. Non, mais c'est parti en fait de ce que disait Nicolas Philibert tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'images aujourd'hui, tellement de films, tellement de tuyaux, des Netflix, des canals, etc. Et on s'est rendu compte que les enfants, c'est une cible de choix, notamment au cinéma, parce que ça fait vendre du pop-corn. Donc il y a une production qui s'est en plus accélérée sur le public pour enfants. Et en fait, c'est parti, quand on est allé avec nos enfants, avec Lydia, on est allé voir Capitaine Super Slip. Je ne sais pas si des gens pas ici ont vu Capitaine Super Slip.
Lydia, vous avez la réponse est dans le titre ou c'est quand même rigolo que
non, c'est affligeant et et le monde secret des émojis et tous ces films qu'on va voir parce qu'il faut aller au cinéma avec les enfants et d'un coup se rend compte mais en fait avec tous les films qu'on a vus et tous les films qu'on connaît, peut-être qu'on pourrait reprendre à l'origine et faire une histoire du cinéma pour les enfants avec 100 films qui sont des films qui les ouvrent à la poésie plutôt que les obliger à subir le mauvais goût ambiant.
Alors voilà. Comment faire pour qu'ils n'aient pas l'impression d'être punis pardon Arnaud, on commencerait par quoi? Alors si tout à coup, vous avez envie, un garçon, une fille de 3 ans, à votre avis, qu'est-ce qu'on peut leur montrer sans qui puissent suivre sur 1h30, 2h?
Alors il faut commencer très tôt, parce que sinon ça devient très difficile, et le hérisson dans le brouillard de Yuri Norstein.
Alors qu'est-ce que évident. C'est un film, je ne connais pas le hérisson dans le brouillard.
C'est un petit film russe de 10 minutes.
Ouais.
Là, on peut demander à tous les gens qui sont ici, peuvent rentrer chez eux ce soir. Ça se trouve sur Internet. On voulait absolument que tous les films se trouvent en un clic.
D'accord.
Il n'y a pas de chef-d'œuvre introuvable. Ça, c'était très important. Vous pouvez rentrer chez vous, vous faites en un clic. Vous trouverez sur YouTube Le Hérisson dans le brouillard, qui est un film de 10 minutes d'un cinéaste russe d'animation qui s'appelle Yuri Norstein. Et je mets quiconque au défi de ne pas être bouleversé et enchanté par ce film.
Premier film. Alors, il faut donc on les assoit. Il faut aussi un petit peu ritualiser qu'ils puissent se concentrer pendant une heure et demie. Quand même les enfants, parce que c'est aussi ça la durée qui est
Compliquée. On s'est débrouillé pour que pour les enfants de 3 ans, c'est surtout des courts-métrages. Il y a des courts-métrages des pays de l'Est. On traverse toute l'histoire du cinéma en fait. Donc on s'est rendu compte que les enfants, par exemple, préfèrent les films muets. Les enfants de 3-4 ans préfèrent les films muets parce qu'il n'y a pas d'effort de langage. Ils n'ont pas de dialogue à comprendre, il n'y a pas des choses qui leur échappent. Donc si vous faites voir des films muets à un tout petit enfant, ça va l'accompagner toute sa vie. C'est le noir et blanc, un enfant de 3, 4, 5 ans n'a aucun problème.
Oui, c'est ça. Moi, ma fille, elle adore toujours les films de Charlot.
Mais il faut commencer très tôt. Sinon, vous montrer à un adolescent d'un film muet en noir et blanc, s'il n'en a jamais vu, il va trouver ça ennuyeux et c'est déjà plus dans ses mœurs. Donc c'est ce combat qui est très important aujourd'hui sur amener le bon goût. C'est ce que dit Nicolas Philibert sur le fait que le cinéma a une histoire, ça a du sens. Si on commence très tôt, ça ne devient pas...
Le bon goût, ne nous faisons pas peur avec des gens qui auraient du bon goût. Enfin, en tout cas, des choses qui sont conçues de façon artistique et personnelle, quoi.
Voilà, exactement. Oui. Des choses signées. Ce qui est important pour nous, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'images qui ne sont pas signées. Beaucoup de blockbusters qui sortent en salle, les gens qui vont les voir ne savent pas du tout qui a fait ce film. Alors qu'à une époque, les gens allaient voir un Hitchcock, allaient voir un Ford, allaient voir un Kubrick.
On va rencontrer quelqu'un, c'est ça qui est beau, comme un livre.
Voilà,
on va voir quelqu'un
d'autre. Ouais. Exactement. Et c'est une chose qui s'est un peu perdue parce que le cinéma s'est beaucoup industrialisé ces derniers temps. Et donc de ramener cette notion de signature, cette notion d'ouverture au monde.
C'est pas une équipe marketing derrière, c'est quelqu'un qui a son imaginaire.
Exactement. Et qui peut être tchèque, africain, japonais, chinois.
Oh non, non, toute cette ouverture me révolte. Non, vous y allez fort, Nicolas Boukrieff, quand même. Vous citez. Alors là, c'est mignon. Dans les films en noir et blanc muet, vous avez une préférence pour... Il y a Buster Keaton, il y a Charlot, bien sûr. La maison démontable, c'est celui où la maison tombe sur lui, par chance, il est
Buster
dans la
Keaton,
porte.
Absolument. Ah
oui. Ouais. C'est formidable.
Cadeau de mariage. Ouais.
C'est
un cadeau de mariage, fait par un oncle.
Ah oui,
maison
cette maison qui lui tombe dessus.
Amancé, ouais.
Alors, il y a des films qui sont aussi... qui parlent des enfants, hein. Il y a Zéro de conduite. Est-ce qu'il y a L'argent de poche, d'ailleurs?
Bien sûr.
Tout à fait.
Ah oui, donc ça, c'est des films qui parlent vraiment aux enfants parce qu'on voit des enfants à l'image.
Exactement. Mais par exemple, on a découvert que L'enfance nue de Piala est un film qui captive des enfants en bas âge, de 6 ans, 7 ans. Alors que pourtant, on dirait Moïse Piala, a priori, on se dirait c'est pas du tout pour les enfants. Mais son premier film, L'enfance nue, est sur un enfant très turbulent. Et c'est un film qui est bouleversant, qui n'est absolument pas violent, et qui est un film qui est un classique pour les enfants, on pourrait dire.
Alors c'est chronologique, hein, ensuite je monte dans les années, je suis en 64, et là je suis étonné parce que vous dites, tout à coup, il y a la série Fantomas de André Hunebelle avec Jean Marais, Louis de Funès et Mylène de Mongeau. Ces fameux films dont Jean Marais devait être la vedette, et c'est là où Louis de Funès a pas pris le pouvoir, mais est apparu comme la vedette comique qui est devenue après. Qu'est-ce que vous avez avec Fantomas alors?
Mais pas de snobisme.
Attendez, il y a une phrase très drôle, je ne sais pas si c'est, pardon, c'est un enfant, c'est un de vos enfants qui a dit ça, oui. Voilà. Attendez, ça m'a fait rire. Qu'est-ce qu'il dit votre enfant dessus?
Il me fait peur Fantomas avec ses oreilles piquantes, mais je l'aime bien quand même.
Oui.
Et c'est tout ce que procure Fantomas. Le personnage de Fantomas avec ce masque étrange, il y a un rapport d'attirance-répulsion des enfants qui est certain. Et on ne voulait surtout pas faire du snobisme cinéphile, de dire oui, c'est un grand film populaire, oui, beaucoup de gens l'ont vu, mais il faut le mettre dans les 100 films parce que c'est un film qui a sa propre poésie, qui raconte un grand pan de la culture française de l'époque.
C'est
une sorte de témoignage de cette espèce de science-fiction un peu foutraque. Et puis il y a De Funès qui est un génie. Donc,
il y a Fantomas contre Scotland Yard, il y a des scènes dans un château en Écosse extraordinaire.
Et puis il faut faire découvrir De Funès aux enfants comme il faut leur faire découvrir Jackie Chan ou Buster Keaton.
Ça marche encore, hein, les enfants, Louis de Funès, l'énergie et la panne. Alors, il y a des textes de présentation des films qui sont très drôles, qui sont pour les adultes et les enfants aussi.
L'idée, c'est d'éduquer aussi un peu les adultes à une histoire du cinéma pour les enfants. C'est-à-dire que c'est pour ça que les textes, c'était de leur dire, regardez, lisez ça et vous verrez que ça peut tout à fait, ça peut tout à fait intéresser vos enfants.
J'aime bien cette phrase qu'il y a dans votre livre. Lydia Nicolas vous dit, pour éviter toute sensiblerie, nous avons évité de citer des commentaires d'enfants sur les films sélectionnés. Il y a un refus du mignon. Hein. La petite phrase mignonne, vous avez fait attention.
Non, parce que l'idée, c'était de faire quelque chose de sérieux et de rigoureux, en fait.
Alors, dans Les Charlie et la chocolaterie, vous n'avez pas choisi celui de Tim Burton.
Mais non, parce que c'est le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a des remakes qui remplacent les films existants. Mais le premier Charlie et la chocolaterie avec Gene Wilder, l'acteur qui jouait dans Frankenstein Junior, était absolument fantastique. Le film est un petit budget, malheureusement, il est écrasé par le Tim Burton. Mais le Tim Burton est un film beaucoup plus ambigu, beaucoup plus agressif, et finalement, avec beaucoup plus d'argent, mais beaucoup moins poétique que le film original.
Le regard de Gene Wilder.
Il a besoin de nous en plus pour en parler, pour le citer, en fait.
Et Gene Wilder, les enfants l'aiment beaucoup, dans le Frankenstein Junior et l'extraordinaire. Et puis dans tout ce que vous avez voulu savoir sur le sexe de Woody Allen, où il tombe amoureux de son mouton, c'est un
grand moment. Les enfants adorent ça, bien sûr.
Oui, les enfants adorent ça. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre dans des films plus contemporains? Moi, je me suis arrêté dans les années 80. Après.
Les films plus contemporains, on est vraiment remonté tout le long de l'histoire du cinéma. Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent picorer dans le livre, mais je trouve, nous, c'est un peu ce qu'on a fait, très émouvant. De commencer dans le cinéma muet et de monter film après film, parce qu'on voit arriver, évidemment, on a au départ dans les petits films courts, puis c'est en noir et blanc, c'est muet, puis arrive la couleur, arrive le parlant, arrive le technicolor, arrive le scope, et puis arrive le numérique. Et finalement, de suivre aussi cette avancée, je dirais film après film, ça a quelque chose aussi d'émouvant, parce qu'on remonte le temps, en fait.
Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de maudit dans tout ce que les enfants recommandent, tout ce que les parents recommandent à leurs enfants? Est-ce que tout à coup, ça devient quelque chose d'une sorte de culture imposée, les livres, les films? Comment faire pour que ça n'intimide pas le goût des parents n'intimide pas les enfants, d'après vous?
Couper le film s'ils n'ont vraiment pas envie de poursuivre. Ne pas les obliger. Rendre le moment ludique. Et essayer de trouver aussi leur cinéphilie, leur propre cinéphilie.
Qu'est-ce qu'ils vous ont amené?
Est-ce que des enfants, de voir les films avec les enfants. Pas de les mettre devant le film pour aller faire autre chose. Pas de se débarrasser d'eux devant des images, de regarder les films avec les enfants. Quand on lit un livre de contes pour les enfants le soir avant de dormir, c'est très rare que l'enfant dise « dégage de ma chambre, j'ai envie de dormir ». Il est ravi de ce moment d'intimité partagée. Et bien le cinéma peut permettre ça. À condition, par exemple, nous on n'oblige pas à voir les films en entier. Un enfant peut être passionné par un film, puis au bout d'un moment être fatigué, on lui dit « bon ben, on s'arrête là, on recommence demain », comme un livre. S'autoriser à voir un film en 3-4 fois. Mais voilà.
Il y a des films de la musique électro sur des films muets.
Est-ce qu'il y a... Il y a des films qui ce sont vos enfants qui vous les ont signalés. Ça vous a étonné qu'ils les aiment ou des réactions qui vous ont étonné, des rires à des moments que vous n'attendiez pas ou des...
Non, ce qui nous a étonné.
Charlie Bowers. Ouais. Charlie Bowers, c'était des films muets, des courts-métrages incroyables qu'on a découverts en faisant ce livre. Et les films ont accroché les enfants, tous les enfants à qui on les a montrés.
Non, puisqu'il nous a surpris, c'est des réactions, parce qu'on a fait des tests, évidemment. Je ne dirais pas qu'on a pris nos enfants comme cobayes, mais ça n'est pas loin. Mais on dit, tiens, on va essayer La Flûte Enchantée de Bergman. Eh ben, sur un enfant de 5 ans, La Flûte Enchantée de Bergman, parce que c'est chanté, parce qu'il y a un prince, parce qu'il y a une princesse, parce qu'il y a un dragon, eh ben, La Flûte Enchantée de Bergman, un enfant, on le regarde pendant au moins une heure. Donc ça nous a surpris. Le Piala dont je parlais tout à l'heure, un film de Ozu, un film japonais quand même. C'est pas évident forcément, mais voilà quoi.
Il y a un Jerry Lewis aussi assez étonnant, vous signalez pour les enfants.
Le Kid en kimono.
Oui, je l'ai pas vu celui-là.
Bah, c'est parce qu'il était avec un lapin.
Ah oui.
Donc c'est pas Dean Martin, c'est un lapin. Ouais. Et comme c'est Frank Tashlin qui est venu du cartoon qui a fait la mise en scène, il distribue des gags au lapin. Le lapin pique presque la vedette à Jerry Lewis.
Oui, vous dites que Dr. Jerry et Mr. Love, c'est, les enfants, ils aiment pas trop, ça leur fait peur.
Ça leur fait peur. Ouais. Les enfants de 3 à 8 ans, après 9-10 ans, ça peut marcher, mais on a vraiment tenu compte de notre cible en fait.
Nicolas Philibert, des films que vous avez vus des enfants aimer?
Non, mais moi je trouve que c'est ce qui met en crise ou en question, c'est la notion même de film pour enfants. Enfin, parce que c'est... Parce que les enfants peuvent voir...
Oui, ce n'est pas des films conçus pour les enfants. Hein. C'est des films où vous êtes aperçu que les enfants aimaient, en fait.
Exactement.
Ce n'est pas des films contre les enfants.
Non, c'est des conseils aux adultes pour regarder des films avec leurs enfants.
Et pour élargir le champ des possibles aussi, autour d'eux.
Ça s'appelle... Parce qu'il y a des films pour enfants qui infantilisent terriblement.
Tout à fait.
Non, puis il y a une chose qui est très importante, c'est qu'aujourd'hui, Walt Disney... Ils ont les films Disney, ils ont les films Pixar, ils ont Star Wars, ils ont Marvel, ils viennent de racheter Fox, c'est-à-dire les Simpsons, Avatar, c'est-à-dire que 80% de ce que regardent les enfants quand ils vont au cinéma, c'est du Walt Disney. Il y Il y a que dans les pays soviétiques qu'on a connu ça. Donc leur dire qu'il y a des films russes, encore une fois, j'ai pas d'amour particulier pour les films tchèques, mais tchèques, africains, japonais, chinois, polonais, portugais, c'est une façon de leur dire, attendez, le film ne se résume pas à super-héros, Mickey, Pixar, ouais. Et à cet imaginaire qui est quand même très, très codé quand même.
Nuski, vous regardiez quoi quand vous étiez enfant?
Beaucoup de choses, mais pas que des films pour enfants, non, surtout pas. Surtout pas, ouais, la culture a pas d'âge, je crois pas.
Je vous ai déconcentré parce que vous vous apprêtiez à chanter, je vous fais parler avant. Ouais. Je suis en train de... Ah, c'est pas bien ce que je viens de faire.
Si, si, c'est super, ça m'excite.
Je me dégoûte. Je me dégoûte moi-même.
Non, non.
Merci. Un extrait de votre album. Ça s'appelle 100 grands livres pour les petits, Lydia et Nicolas Boukrieff. Et on peut tous les... Alors, on les clique, tous ces films, on peut les trouver comme ça.
En un clic, ça c'était très important. Très pas le côté snob cinéphile, c'est sublime, dommage que ce soit introuvable.
Non, non. Le livre est
en
drôle,
un clic ouais. Ou deux clics, ça se trouve.
Merci. Mmh. De passer un extrait. Nuski, un extrait de la bonne Nuski.
Et je fume ma weed, ouais toute la nuit. C'est une queen, pourtant elle me suce la bite. Il me faut des lovers, il me faut de la pif. Y'a qui pour me sauver? Où est le Christ? Je sais pas ce qu'elle s'imagine. La couverture du magazine. Au début c'était comme un film. J'aurais pu finir à la vie. Mais je dois vivre. Pendu dans le vide, accroché au rideau, trahi par les rites qui reflètent mon esprit. Là je fais ma huit sans réfléchir, vivre sans réfléchir, vivre sans réfléchir. Ouais, je me suis lancé sans réfléchir. La pente est raide, mais je suis une terre qui roule, qui roule, qui roule, qui roule. Je suis triste, mais je vous dis que ça roule. Ouais, ça roule, gros, ça roule. T'inquiète pas, ça roule. Tout le monde veut le premier rôle. Je sais pas si j'ai les épaules. J'étais pas très bon à l'école. Et rien que ça disait que ça déconne. Mais son petit cul m'a rendu fou. Et c'est moi qui l'ai rendu folle. J'en ai oublié le soleil. Je ne trouve plus le sommeil. On sait du mal. Y'a des nuages à l'horizon. Je me sens con. Je me remets en question. Tu m'as menti sans pression. Quelque part ça m'impressionne. Y'a plus d'encre à l'impression. Yes, tous ces mots qu'on emprisonne. Yes, tous ces mots qu'on emprisonne. Yes, tous ces mots qu'on emprisonne. Moi j'suis ma weed. Ouais, toute la nuit. C'est une green. Pourtant elle m'suce la bite. Il m'faut des lobbies. Il m'faut de la pif. Y'a qui pour m'sauver? Où est le Christ? Ce singe est laissé comme une actrice. Si t'as la santé, pourquoi t'es triste? J't'ai déjà dit d'arrêter. Pourquoi t'insistes? Trop de fois je me suis demandé pourquoi j'existe. Je sais pas ce qu'elle t'imagine. La couverture du magazine. Au début c'était comme un film. J'aurais pu finir à la vie. Mais je dois vivre. Pendu dans le lit. Accroché au rideau, trahi par le rythme qui reflète mon esprit. Là je fume ma weed sans réfléchir, vivre sans réfléchir, je vis sans réfléchir.
Sur France Inter.
Oui. Nuski, l'album s'appelle Nuski aussi. Merci de nous remercier en tout cas, et ça, ça ne t'enlèvera pas ça. Une question se pose évidemment à 23h49, c'est qu'est-ce qu'on mange dans les restaurants à Abidjan? Eh bien, rassurez-vous, nous sommes là pour répondre à toutes vos questions. Nous sommes avec Loïc Dablé et Carmel Billot, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir, Edouard.
Bonsoir, Loïc. Bonsoir, Carmel. Qu'est-ce qu'on mange dans les restaurants à Abidjan? Quelle est la cuisine ivoirienne qui est servie d'habitude dans ces restaurants? Quelles sont les spécialités?
En général, dans les restaurants ici à Abidjan, c'est beaucoup de poissons braisés. C'est une cuisine qui n'est pas véritablement africaine. Il y a certaines sauces, mais elle n'est pas vraiment représentative de la gastronomie, en tout cas de Côte d'Ivoire.
Alors, vous, Loïc, c'est vous qui êtes en cuisine, hein?
Oui, c'est ça.
Au PANAF. Le PANAF, c'est qu'est-ce que c'est? Ouais. C'est pas exactement un restaurant, c'est un cours de cuisine, c'est quoi?
Le PANAF, c'est un lieu qui est à provocation à mettre en valeur les cuisines d'Afrique. Les cuisines du continent, donc les cuisines d'Afrique et de la diaspora. Donc il y a un restaurant, le restaurant Migration, dans lequel on forme des jeunes de retour de migration, de retour de Libye, voilà, et des expositions, et voilà. Je passe Carmel aussi.
En fait, le PANAF, c'est vraiment un espace qui est à peu près 1200 mètres carrés, qui est donc entièrement dédié à la promotion des cuisines d'Afrique et de la diaspora, comme le disait Loïc. Donc c'est un restaurant, un bar, un musée culinaire. Donc chaque mois on change l'exposition. Là on vient de terminer avec l'exposition Ramadan. Comment les cuisines africaines elles ont été influencées par les cuisines arabes et comment en fait les cuisines africaines relèvent d'un véritable métissage culinaire. Et là ce mois-ci avec le mois de soul food on passe justement à la cuisine soul food.
Comment on casse le Ramadan à Abidjan? Il y a des plats spéciaux le soir? Qu'est-ce qu'on mange à Abidjan pendant le Ramadan?
Pendant le Ramadan, en fait, on rompt le jeûne avec un lait, généralement c'est un lait de vache, comme ça, et une date. Sinon, c'est de la bouillie. Les gens qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, on appelle ça un cocao, c'est-à-dire c'est un plat avec, généralement c'est une bouillie avec des beignets, et c'est tout.
Alors le Ramadan est fini il y a quelques jours, donc retour à des plats. La journée aussi, vous êtes dans le quartier Cocody-Mermoz. Il paraît que votre établissement est jaune vif parce que c'était la couleur des festins du royaume du Dahomey, l'actuel Bénin. Oui. Ça veut dire quoi les festins? Pourquoi est-ce que les festins étaient jaunes?
Pourquoi les festins étaient jaunes?
Ça veut dire quoi qu'ils étaient jaunes?
En fait, c'était par rapport à l'abondance des cultures agricoles, en fait. C'était pour représenter les champs et autres. Et en fait, on a choisi les festins du royaume du Dahomey pour montrer en fait que les cuisines africaines, elles n'ont pas commencé avec la colonisation ou autre. C'est qu'il y a des histoires, il y a différentes histoires culinaires et qu'à travers la cuisine, en fait, c'est une véritable quête d'identité donc culinaire, mais également culturelle. On se renseigne sur l'histoire, sur les différents royaumes qui existaient, sur les différentes cuisines et voilà.
Alors, c'est quoi la culture des restaurants à Abidjan? Sont des maquis, il y a des petits restaurants? Est-ce que les gens sont habitués au restaurant ou c'est beaucoup pour des diasporas plutôt, pour des touristes ou des communautés internationales?
Bizarrement, à Abidjan, la culture culinaire, elle est très, très, très cosmopolite. Le premier restaurant à Abidjan qui fonctionne le plus sur TripAdvisor, par exemple, c'est un restaurant de cuisine italienne. Donc, vous avez des restaurants de cuisine italienne, des restaurants de cuisine libanaise, des restaurants de cuisine maghrébine aussi. Vous avez des restaurants de cuisine américaine. Et ensuite, si vous voulez vraiment découvrir la véritable cuisine ivoirienne, eh ben, faut aller dans des maquis. Et là, dans les maquis, on va vous proposer... il y a quelques restaurants qui proposent des plats comme le kedjenou ou d'autres sauces. Mais après, si vous voulez vraiment rentrer dans le terroir, c'est des petits maquis, c'est au village, où là, vous allez manger de véritables sauces comme la sauce copé, qui est faite à base de cabosse de cacao, par exemple. Vous allez manger des sauces pro, vous allez manger beaucoup de sauces, mais ça, il faut voyager.
Et vous, Loïc Dablé, quand vous êtes mis en cuisine là, que vous enseignez donc la cuisine à des jeunes, c'est des recettes que vous avez retrouvées où vous avez demandé à des gens âgés, c'est dans des livres, ou est-ce que vous trouvez des anciennes recettes ivoiriennes?
Les recettes qu'on leur enseigne surtout des bases, en fait, pour qu'ils puissent en sortir. C'est vraiment les bases de la cuisine internationale. Et ensuite, on leur donne des notions sur, nous, on fait beaucoup de recherches sur les cuisines d'Afrique en général. Donc il y a vraiment les deux parties.
Il y a des descriptions de banquets d'autrefois?
En fait, c'est un mélange. C'est qu'il y a beaucoup de traditions orales. Donc, comme il y a la tradition orale, vous êtes obligé de demander aux ancêtres ou aux grands-mères ou aux mamans qui se transmettent les recettes de mère en fille, ainsi de suite. Et après, vous avez des recherches où malheureusement, en fait, bizarrement, pour avoir l'information, vous avez plus d'informations à Paris qu'ici. Oui. À Paris, vous avez CNRS ou encore l'Institut des Mondes Africains où vous avez des chercheurs comme Monique Chastanet qui ont fait des véritables productions scientifiques, limites, littéraires également, pour montrer justement comment, au niveau historique, on mangeait à l'époque.
Qu'est-ce qu'on mangeait ce soir, là? C'était quoi, le IW? Vous avez fait quoi, là?
Ah, ce soir, là, alors... ce soir, au menu, on a de la dorade coryphène. La dorade coryphène, c'est un poisson qui est pêché au large de d'Abidjan vers Vridi, entre Vridi et Port-Bruy. Avec une sauce, on a une petite sauce qu'on appelle salsa verde, c'est avec de la mangue locale. En ce moment, c'est la saison de la mangue. Donc, on a beaucoup de mangue, on a beaucoup d'avocats. On a un avocat qu'on appelle l'avocat beurre, qui est excellent, qui est très, très, très mou et très savoureux. On a ça, et voilà. Donc, ça, c'est un des plats. Et sinon, on a en ce moment on a un plat qui s'appelle inam à la carte, inamé. Inamé, c'est une espèce de on peut dire c'est un peu comme une tortilla, c'est une recette de Sao Tomé qui est assez intéressante. C'est de la patate douce, des herbes, des épices, de l'œuf, et c'est servi avec une petite salade avec une vinaigrette au mille.
Non, c'est bon, on débarque, on va au Panaf. Merci. Parce que tous les gens qui ont l'impression qu'il y a juste voilà ou le mafé ou le yassa ou la tieké poisson ou la loco poulet, il y a des milliers de recettes aussi. Et vous voulez travailler au PANAF, ce centre culturel. Merci Loïc Dablé, Carmel Billot.
Merci à vous, Ida.
J'ai attaqué dans les graves, je ne sais pas pourquoi. Voilà, retour plateau avec le dernier invité. C'est la clôture. Arnaud Vaillant est là depuis 10 heures avec cette énergie. Présentez-nous Nicolas Philibert, qui est là. Pourquoi je fais des E? Vous êtes là depuis tout à l'heure. On a parlé de vos films. Vous avez filmé, vous avez fait un très beau film sur l'hôpital psychiatrique de Laborde. Mais vous avez rencontré Arnaud Vaillant, qui est infirmier. Lui, dans un hôpital de jour, je crois.
Oui, sur une structure flottante sur la Seine. C'est pas les bateaux mouches, c'est un lieu qui s'appelle l'Adamant. Et Arnaud est infirmier en psychiatrie sur ce centre de soins.
Pourquoi il est venu vous filmer, à votre avis, Arnaud, Nicolas?
Alors ça, il n'est pas venu me filmer.
Prenez le micro parce que...
Ouais, pardon, il n'est pas venu me filmer du tout encore.
Il a envie de vous filmer parce qu'il me dit, je veux venir à Arnaud Vaillant, il est dans mon bonus DVD, j'adore l'expression, l'homme du bonus DVD, je trouve que c'est un très beau titre.
En fait, ce qui s'est passé, c'est que en fait, cet après-midi, il n'était pas prévu que je vienne, je vais aller voir un film qui s'appelait Les Particules.
Oui.
Et du coup, j'ai avancé ma venue... et j'ai vu Les Particules, c'est un très 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 beau film sur la folie justement. Et en fait, vos assistantes Perrine et Eugénie m'ont appelé, ils m'ont dit mais il faut que tu viennes, il se passe un truc de fou parce que je crois qu'il veut tout péter, Edouard Baird, il veut parler de la folie, de ce qui se passe actuellement en psychiatrie. Il veut faire un truc totalement dingue et révéler un peu à Agnès Buzyn ce qui se passe derrière le côté feutré.
Alors j'enlève la musique.
Et Noski justement, Noski m'a dit, mais il faut que je fasse un titre là-dessus. L'art et la folie, il y a des corrélations, il y a quelque chose qui se passe, et ça, il faut en parler parce que les médias n'en parlent pas, les médias ne parlent que des chambres d'isolement, des contentions, mais il se passe quelque chose d'alternatif à la psychiatrie. Et Perrine et Eugénie, vos assistants, m'ont dit, mais ça, Edouard, il doit en parler, il veut en parler. Et y a même peut-être des morceaux de slam, de rap qui peuvent être conçus autour de cette question. Y a-t-il quelque chose, des corrélations entre la folie et la création qui peuvent être aujourd'hui mises en place autour de cette émission qui est la nôtre, qui est la vôtre, Edouard?
Avec grand plaisir, Arnaud. Non, quoi? Pourquoi? Mais non, vous n'envoyez pas le générique là-dessus. Mais non.
Générique de
vous venez. Est-ce que vous savez quoi? On est à Toulouse dimanche prochain et dans deux semaines on fait la dernière de l'année. Vous revenez, vous me jurez? Je suis désolé. On a la bande annonce. Ça sera la dernière en direct du théâtre Antoine. Mais non, mais c'était extraordinaire. Et le générique partout. Vous me jurez? Je prends l'engagement de vous inviter dans deux semaines. Vous acceptez?
Comme vous voulez.
Avec plaisir.
Avec
Arnaud,
grand plaisir.
Merci pour la bande annonce qui est alléchante. J'étais bouche bée devant ce mini slam génial. Merci à Arnaud Vaillant. Merci et à dans deux semaines. Merci à Justin Fontaine d'avoir réalisé l'émission, Eugénie Poumaillot, Félix Vivier, Périne Malin d'avoir préparé, merci Pierrick Charles, Jean-Baptiste et le Chopin de Borde, Florent Layani à Technique et Arnaud à dans deux dimanches, parce que dimanche prochain, nous sommes à Toulouse en direct du restaurant Le Gigot, place Victor Hugo. Place Victor Hugo ou place Wilson, je ne sais pas. Enfin, venez au Gigot, on sera là en public et à dans deux semaines. Merci Arnaud Ballet, je suis désolé.